mois dernier. Donc, c'est une conférence sur les anneaux des planètes. Une conférence qui a présenté en fait les quatre planètes qui ont des anneaux dans le système solaire. Donc Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et puis qui a parlé un petit peu aussi d'une expédition qu'il a fait pour essayer de mesurer ou d'avoir des informations sur
l'atmosphère
de Titania, c'est un satellite d'Uranus. Voilà. Donc c'est vrai que c'était assez intéressant aussi. Et puis nous parler aussi un petit peu en fait, l'avantage, c'est qu'un anneau par rapport à une planète, ça ressemble étrangement à une étoile avec un disque protoplanétaire. Donc, il nous a parlé un peu de tous ces phénomènes. Et c'est vrai que quand on voit la présentation qu'il nous a fait des anneaux de Saturne, c'est assez impressionnant de voir toute la diversité, toute la complexité de ces objets qui bougent, qui s'entrechoquent, qui se séparent, etc. Donc, c'était une bonne conférence. On vous en reparlera. On fera une partie un peu plus importante pour parler de cette conférence. Autrement, maintenant, les nouvelles à venir. Samedi 23 mars, c'est la troisième édition, donc le samedi 23 mars, troisième édition des Ciels de Nantes, donc la soirée d'observation publique de la Société de l'Astronomie de Nantes. Donc là, en fait, ça va se dérouler au parc du Grand Botreau, comme les deux dernières éditions. Donc là, en fait, le principe, c'est que la Société de l'Astronomie de Nantes sort ses instruments, télescopes, lunettes, jumelles, pour vous faire découvrir le ciel au parc du Grand Blotreau. Donc ça va commencer à partir de 21h. Et en fait, ça va durer jusqu'à temps que les plus chevronnés tiennent. Ouais, ou alors, si jamais il y a le temps, se découvre plus ou moins. Donc là, la première était un peu mitigée. On avait un temps qui était vraiment pas génial. On a eu une heure d'observation à peu près.
Ouais, à peu près, ouais, un peu plus.
Un peu plus.
La deuxième était un peu meilleure.
Donc la deuxième était mieux. Donc on espère que ça va continuer comme ça. Voilà. On a eu à peu près une centaine, plus de 100 ou 150 personnes qui sont venues.
Pour la deuxième édition. Pour la deuxième édition. On verra la troisième, mais bon, si le temps est de la partie, je pense que ça devrait être encore mieux.
Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qu'on fait tous les 2-3 mois. Et en fait, la prochaine, donc ça sera le 23 mars, celle d'après sera le 20 avril. Donc on a déjà programmé les dates. L'important aussi, c'est que les gens ont suivi nos conseils. On leur avait dit, si vous avez un instrument dans votre grenier qu'on vous a offert pour Noël ou que vous ne savez pas comment vous en servir, emmenez-les. Donc il y a des gens qui sont venus avec leur télescope. Déjà, on leur a appris à le monter, puisque bien sûr, le télescope, quand vous l'achetez, il n'est pas en pièces détachées complètement, mais simplement, c'est qu'il y a la partie de la monture, etc., qui est à monter. Il faut savoir bien le monter. Et puis, bien sûr, on leur a appris à déjà se positionner dans le ciel avec leur instrument. Donc, si vous avez des instruments, n'hésitez pas à venir. Et autrement, il faut venir regarder Saturne, Jupiter, parce qu'encore, on a des belles planètes qui vont apparaître. Et puis, bien sûr, il y a toutes les galaxies et nébuleuses qui vont venir. T'as quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'on va voir?
J'ai à peu près tout dit, mais bon, le ciel est tellement vaste qu'il y aura bien sûr beaucoup de choses à observer.
On a pu s'occuper, puis de toute manière, si vous voulez vraiment savoir ce qui va se passer, ce que vous allez pouvoir voir, vous n'avez plus qu'à attendre la suite de l'émission. Frédéric va présenter les principaux phénomènes à voir. En sachant que bien sûr, le ciel est toujours à voir, et ce soir, par exemple, une fois, alors vous avez deux possibilités. Soit vous prenez une radio et vous vous mettez dehors, et puis vous prenez votre carte du ciel, et puis vous allez essayer de voir comment Frédéric, s'il vous explique bien, si vous avez à retrouver les planètes qu'il va vous présenter. Ou alors, une fois que l'émission sera finie, si vous préférez rester au chaud, vous prenez un bon chocolat, une bonne laine, et puis vous allez observer le ciel pour voir un peu, parce que là, on a un ciel dégagé à Nantes. Hein.
Oui, faut en profiter un peu.
Faut en profiter, ouais. C'est vrai quand il pleut ou quand il fait pas très beau, donc là, profitez-en. Ensuite, le prochain événement, ça va être le 29 mars, la conférence de Marie-Yvonne Gérin, qui va nous parler des galaxies et surtout de tout ce qui est l'univers invisible, ou plutôt l'astronomie de l'invisible, puisqu'en fait, qu'on appelle l'infrarouge, puisque bien sûr, nos yeux ne sont pas capables de voir dans l'infrarouge. Donc, elle va nous présenter un peu toutes les évolutions qu'a permis cette technologie de l'observation dans l'infrarouge, et puis surtout, en plus, de l'évolution des galaxies. Puisqu'en fait, on est dans une galaxie, et en fait, il va falloir savoir un peu comment on va être mangé, ou plutôt, c'est intéressant aussi de savoir comment c'est créé, et puis comment, je pense, elle va se détruire, ou on va changer de forme.
Changer de forme, plutôt.
Donc, on va vous présenter tout ça. Tout de suite, vous allez pouvoir gagner des places pour cette conférence, le vendredi 29 mars. Pour cela, il va falloir répondre à une question qu'on a fait très simple, hein. Donc, il suffit de téléphoner à Alternantes au 02 40 93 26 62, 02 40 93 26 62, et répondre à la question suivante. Quel est le nom de notre galaxie? Vous savez tous qu'on est dans une galaxie, il faut simplement dire le nom qu'on lui a donné. Donc ça, normalement, c'est assez simple. Pour ceux qui ne savent pas, hein, vous avez des bonbons qui portent le nom, mais bon, c'est en anglais, donc Je sais pas si il faut avoir un minimum de culture et de vocabulaire anglophone. Donc, vous téléphonez, vous gagnez une place pour la prochaine conférence du 29 mars. Et puis, bien sûr, après le 1er avril, ça sera la conférence du la prochaine émission de radio qu'on fera le 1er avril. Je ne sais pas si on fera quelque chose de spécial ou pas, d'ailleurs. Mais bon, on n'est pas encore rendu. Autrement, donc ça, c'était les principales informations de la SAN. Autrement, vu qu'on a Olivier Sauzereau, c'est cela, oui. Olivier Sauzereau, qui vient, en fait, il va nous parler rapidement. Après, on étalera un peu notre sujet sur quand on va parler du compte-rendu de sa conférence, sur le séjour du patrimoine, séjour patrimoine, en fait, qui est à l'initiative d'une association dont tu fais partie.
Qui est l'association Éveil et Patrimoine.
Voilà, et donc, c'est en fait, séjour patrimoine, qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, l'association Éveil et Patrimoine est une association qui existe depuis environ 12 ans et qui a la gestion par le rectorat et la DRAC, c'est-à-dire le ministère de la Culture, qui a la gestion donc des classes du patrimoine de Nantes. Les classes du patrimoine, c'est un cahier des charges très précis où une classe plutôt, est durant 5 jours immergée dans un patrimoine et dans l'époque qui le caractérise. Elle va donc découvrir tout ce qui caractérise ce patrimoine. Alors Nantes, jusqu'à présent, les classes du patrimoine de Nantes, c'était Nantes une ville au XVIIIe siècle, puisque la forme urbaine de la ville de Nantes, son architecture, est essentiellement une architecture XVIIIe. Alors, ce sont les classes du patrimoine qui fonctionnent très très bien depuis donc une douzaine d'années. Suite à mes découvertes et mes recherches en histoire de l'astronomie à Nantes, j'ai eu l'idée depuis 2 ans d'essayer de monter un nouveau concept de classe du patrimoine, qui est celui de classe du patrimoine astronomique.
Donc ça, c'est la nouveauté, en fait.
C'est la nouveauté. À partir de cette semaine, c'est le test lors d'un séjour patrimoine. Donc, c'est pas tout à fait une classe dans le sens où ça va durer 3 jours au lieu de 5 jours. Mm-hmm. Et donc, nous avons 2 classes qui vont donc, pour la première fois, suivre ces séjours du patrimoine astronomique, qui est en fait l'organisation de la ville autour de son port.
C'est quelle classe, à peu près?
Alors, ce sont des classes de seconde. Il y a une classe de Saint-Stanislas et une classe de Jean Jaurès. Faisons la parité public-privé.
Tout à fait, c'est bien. Donc là, donc ça, c'est une nouveauté. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est l'association Éveil Patrimoine qui va voir les écoles ou les établissements, ou c'est les établissements qui peuvent prendre contact avec vous s'ils sont intéressés pour faire des nouveaux séjours, en sachant que déjà, il y en a déjà un deuxième de prévu.
Voilà, absolument. Il y a donc un deuxième séjour pour la semaine prochaine. Et puis, naturellement, nous sommes prêts à répondre à toute demande avec le plus grand plaisir.
D'accord. Donc, on vous donnera les coordonnées tout à l'heure. Peut-être même les donner maintenant. C'est pas la peine d'attendre trop.
Alors,
donc,
les coordonnées, c'est le 02 40 89 49 87.
Voilà. Donc, si vous êtes élève, parlez-en à vos professeurs. Si ça vous intéresse de faire un séjour patrimoine, pour une fois qu'on peut accéder à la culture et que c'est, je pense, intéressant de travailler un peu pour essayer d'apprendre des choses sur sa propre ville, c'est le moment de sauter dessus. Donc, vous notez les coordonnées qu'on va vous répéter, le 02 40 89 49 87, et donc, vous allez voir vos professeurs, vous leur dites « J'ai écouté Pucelle hier, c'était bien », donc ça déjà, vous pouvez le dire à chaque émission, ça c'est pas spécialement par rapport à celle d'hier, et puis vous dites que vous avez entendu une information comme quoi on pouvait faire un séjour patrimoine, en fait. Donc ça consiste en soi exactement, c'est qu'ils sont lâchés dans la ville et puis...
Alors, ils ne sont pas lâchés, c'est-à-dire que le principe de cette classe du patrimoine, c'est que les élèves sont en même temps acteurs. Donc ils vont découvrir par eux-mêmes ce patrimoine. Alors ça consiste effectivement à un parcours découverte à l'intérieur de la ville, grâce à des fiches pédagogiques que j'ai créées au sein même de l'association. Donc c'est la découverte de ce patrimoine astronomique. Quand je dis patrimoine astronomique, cela peut être effectivement les restes d'observatoires qu'il y a dans la ville de Nantes, mais cela peut être également la symbolique de l'astronomie dans la pierre, dans la sculpture, dans les frontons des riches hôtels particuliers d'armateurs, tout ce qui touche à l'astronomie, à la notion du temps, puisque cette astronomie à Nantes était une activité essentielle, puisqu'elle servait à la navigation en mer, et que c'était une activité qui permettait aux navires de la marine marchande de Nantes d'aller à l'autre bout du monde avec le minimum de casse, en connaissant donc la route que l'on pouvait suivre au milieu de l'océan grâce à l'observation des étoiles. Okay. Donc c'est toute cette découverte de la marine et de l'astronomie qui est organisée autour de la ville de Nantes, à travers différents ateliers que je détaillerai peut-être tout à l'heure.
Ça suit tout à fait le travail que tu as effectué déjà pour lequel on t'a invité à faire une conférence lors de la semaine de l'astronomie.
Absolument.
Qui était le titre de la conférence, Nantes au temps de ses observatoires, titre piqué par l'auteur de son livre qui s'appelle L'entretemps de ses observatoires, qui est déjà à sa deuxième édition, que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies. S'il n'est pas dedans, c'est que ce n'est pas une bonne librairie. Voilà, ça c'est un critère de... De meilleure librairie devra déjà avoir beaucoup de livres astronomiques. Déjà. Ouais. Point. Voilà. Donc les bonnes librairies, déjà, il est dedans. On en parlera tout à l'heure. Voilà, c'était les petites nouvelles. Donc retenez bien les dates importantes. Samedi prochain, les ciels du Nantes. Une observation publique du ciel, gratuite, bien sûr. Samedi ouverte. Prochain, à... samedi 23.
Dans 15 jours.
Ouais, c'est vrai que ça passe tellement vite, mais peut-être pas à ce, point, à ce point-là quand même. Le samedi 23 mars, à partir de 21h. Bien sûr, s'il pleut des cordes, c'est pas la peine de venir. Par contre, s'il fait boucher à un endroit où vous êtes, essayez peut-être de vous déplacer, puisqu'il y a des gens qui nous ont dit « Ouais, j'ai pas osé venir. » Mais en fait, nous, on était, il faisait dégager. Donc, n'hésitez pas à venir quand même. Bon, bien sûr, s'il neige, c'est pas la peine de venir. Hein. Ça m'étonnerait qu'il neige pas au Grand Blottereau. Mais bon, on va dire que le Grand Blottereau a un microclimat. Voilà, on va être optimiste. Tout de suite, nous allons aborder, on parle du ciel justement, du ciel du mois. Quels sont les événements astronomiques qui vont consteller le ciel ce mois-ci? Et c'est notre ami Frédéric Brion qui va attaquer le sujet, un sujet qu'il maîtrise, qu'il connaît bien, le ciel.
Alors, qu'est-ce qu'on va observer, qu'est-ce qu'on va observer au mois de mars? Bon, tout un tas de trucs, hein, comme d'habitude. Bon, en particulier, toujours parler des planètes. On parlait justement des anneaux des planètes. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, c'est la meilleure saison pour observer justement Jupiter et Saturne. Car elles sont vraiment très très hautes dans le ciel, en particulier Jupiter. Jupiter est actuellement dans l'une de ses positions les plus hautes dans le ciel. On ne la reverra pas aussi haute dans le ciel d'ici à peu près 12 ans. Quoi. Donc, profitez-en un maximum pour observer sa surface. Son atmosphère nuageuse, voilà, l'évolution bien. De sa. Des différentes
couches de nuages.
Couches de nuages, en particulier par exemple la tache rouge. Profitez aussi des anneaux de Saturne, car là ils sont vraiment très très ouverts en ce moment.
Quand ils sont ouverts, en fait, c'est que la planète tourne sur elle-même. Et ce qui se passe, c'est que l'ubiquité des anneaux, c'est-à-dire la façon dont ils se penchent vers nous, est plus ou moins importante. Donc en 94, ou je ne sais plus quelle année,
en 94, ils étaient
complètement sur la tranche. Voilà, donc on ne voyait pas d'anneaux.
On voyait plus d'anneaux.
Voilà. Et donc là, quand on dit ouvert, ça veut dire qu'elle est très très penchée. Elle est penchée, donc on voit bien les anneaux, on en profite un maximum.
On en profite un maximum. Donc profitez-en aussi pour justement regarder ces anneaux, regarder la division de Cassini, comme on a si bien parlé Bruno Sicardi vendredi dernier. Et il y a ces deux petites planètes, planètes.
C'est les grosses solaires, mais bon.
Et profitez aussi pour commencer à repérer la planète Vénus qui nous revient dans le ciel du soir. Moi, je l'ai observé hier soir, tout juste après le coucher du soleil, horizon ouest, même peut-être un peu sud-ouest. Profitez juste après le coucher du soleil, si vous voyez un point très très brillant, parce qu'il faut savoir que Vénus est quand même l'astre le plus brillant du ciel après la Lune et le Soleil, bien sûr. Donc je pense que vous la repérez assez facilement, et si vous avez un peu de mal, essayez de profiter de son rapprochement avec la Lune, un fin croissant de Lune qui aura lieu le 15 mars. Quoi.
Donc le 15 mars, ça se rapproche de la Lune.
Si vous repérez la Lune, si vous voyez un astre assez brillant à côté, il y a de grandes chances pour que ce soit la planète Vénus.
Et le gros intérêt, c'est que Vénus, par rapport aux autres planètes qu'on observe, facilement, elle a des quartiers, comme la Lune.
Vu que c'est une planète qui est située entre le Soleil et la Terre, oui, elle peut présenter une phase de quartier. Mais je dirais malheureusement, à notre époque, elle est plutôt pleine, parce que là, justement, elle ressort un peu derrière le Soleil. Et vous la verrez plutôt, si vous la regardez dans un télescope, plutôt comme un globe assez rond et surtout très lumineux.
Ouais, surtout très lumineux. C'est vrai que c'est pas le plus spectaculaire, que c'est vrai que c'est assez lumineux. Mais
C'est très très joli quand elle est en phase de très fin croissant, où là elle atteint un diamètre apparent très très grand. Mm-hmm. Et là c'est vrai que c'est assez impressionnant de la voir sous cette forme là. Donc voilà pour les principales planètes à observer. À côté de ça, on a découvert récemment une comète qui est assez prometteuse. La comète Ikea.
Ouais, regarde tes notes parce que là.
Je regarde mes notes. Ikea Zhang, elle est pas facile, un japonais et un chinois.
Ah ouais, bon, là, on n'est pas aidé. Il hein. faut savoir que les comètes, en fait, qui sont découvertes par des. Il y a eu des amateurs, notamment Schumacher, qui était.
Qui s'était scratché sur Jupiter. Ouais, une comète découverte par Schumacher.
Donc, un astronome amateur, donc en voilà. fait, ou même les professionnels, c'est celui. Le nom de la comète. Porte le nom du ou des découvreurs.
Voilà.
Donc là, pas de chance pour notre orthographe ou notre façon de parler, c'est un chinois et un japonais. Donc,
voilà, qui l'ont découverte le 1er février dernier. Et elle est assez prometteuse. Alors elle se retrouve dans la constellation actuellement des poissons. Alors prenez une bonne carte du ciel pour essayer de repérer la constellation des poissons, car c'est pas une constellation très marquée. Pour ceux qui connaissent un peu le ciel, partez du carré de Pégase et je pense que vous réussirez à trouver assez facilement les poissons. Alors profitez de cette comète. Profitez de ce mois de mars pour l'observer, car elle va monter progressivement en magnitude, je veux dire en luminosité, oui. Pour parler
plus simplement
pour les néophytes. Et elle va être visible à l'œil nu. C'est-à-dire qu'on pourra la regarder sans instrument, du moins la repérer sans instrument.
La voir sans instrument. Et elle apparaît prometteuse comme Yakutake ou
Un peu moins prometteuse, ouais. Mais d'une assez belle luminosité quand même.
C'est vrai que ça, c'est un peu un coup à prendre, on sait jamais trop. C'est en fait quand il la découvre, il essaye de récupérer de savoir un peu si elle va être mieux ou pas qu'une autre, ou de savoir si elle va être lumineuse. Et bien sûr, le seul moment de le savoir, ça dépend de sa composition notamment. Et en fait, le seul moment de le savoir, c'est au moment où elle arrive, quoi.
Voilà,
c'est vrai que plus elle arrive, plus on sait comment elle va être.
C'est assez dur de prévoir la luminosité des comètes. Bon, pour celle-là, peut-être que je pense que les résultats sont peut-être pas trop trop mauvais, parce que elle a été découverte le 1er février, donc assez tard par rapport à, je dirais, la position la plus favorable pour la Terre. Donc peut-être que la luminosité sera confirmée.
À partir de quand qu'on la voit?
Vous pouvez l'observer dès maintenant.
Dans le ciel de Nantes, comète en plus.
Ciel des Nantes, on pourra
Jupiter, Saturne, Lune,
observer
comète.
Cette comète.
Ouais. Déjà, c'est pas mal ça.
D'ici une vingtaine de jours,
toujours aucun problème. Donc elle devrait être encore mieux, en fait.
Elle devrait être encore mieux. On l'annonce plus brillante tout début avril. Donc,
d'accord, donc on va être pile poil dedans.
On sera une semaine près. Ouais,
c'est très bien.
Je pense qu'on pourra en profiter justement avec des télescopes. Et justement, je pense qu'elle sera mieux avec des télescopes qu'à l'œil nu. Hein. Mm-hmm. Bon, on verra beaucoup plus de détails. Donc ça, c'est une des dernières petites surprises, je dirais.
Ça, c'est toujours. ça fout la cerise sur le gâteau, ça, quand ouais. ça arrive. Quand il y a un mois astronomique, on va pas dire normal, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de gros événements.
On a toujours des bonnes surprises. On peut avoir des bonnes surprises. Il y a 4 ans, en 98, avec Yakutake, elle avait été détectée, je dirais, deux mois avant, et elle a atteint des magnitudes. Une magnitude assez élevée, et elle arborait surtout une magnifique queue. Très très longue, visible ouais. sur des dizaines de degrés dans le ciel.
On a eu pas mal d'appels où les gens qui demandaient ce que c'était, cette espèce de phare dans le ciel. Voilà. Il y avait déjà un débarquement d'extraterrestres. On était obligé de rassurer un certain nombre de personnes.
Donc voilà pour pour cette comète. Et puis aussi profiter de cette saison pour observer un maximum de galaxies, car le printemps, en astronomie, on dit souvent c'est la saison des galaxies. Bon, ah ouais. Ça tombe bien pour la prochaine conférence. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de galaxies à observer, en particulier dans des constellations comme la Vierge, comme la Chevelure, les Chiens de Chasse. Donc tout ça, ce sont des constellations qui sont repérables à l'aide d'une carte du ciel.
C'est aussi ce qu'on fait dans les ciels de Nantes, c'est qu'on fait une découverte du ciel pour que vous arriviez après à connaître un certain nombre de constellations qui permettent après de savoir, comme tu l'as dit tout à l'heure, que les poissons, c'est à côté du carré de Pégase. Donc bien sûr, tant qu'on trouve facilement le carré de Pégase, on sait où sont les poissons, etc.
De vous repérer plus facilement. Ouais. Et il y a aussi un petit jeu marrant à cette époque-là. Il y a un catalogue qu'on appelle le catalogue Messier, qui est très connu, je dirais, dans le monde de l'astronomie amateur. C'est tout simplement un catalogue d'objets célestes qui a été compilé par l'astronome Charles Messier. Et à cette époque, théoriquement, tous les objets du catalogue sont observables en une nuit. Alors il y a dans différentes parties, alors en France ou même aux États-Unis, il y a des petits concours qui consistent tout simplement à observer le maximum, tous les objets du catalogue.
Il y en a
105,
103
il y en a 109.
109,
ouais. 109, voire 110, mais il y en a quelques-uns qui ont été rajoutés.
Il faut savoir qu'on n'a qu'une bah, qu'on n'a qu'une nuit. Vous avez 109 objets
à repérer.
Donc, bien sûr, faut savoir où ils se trouvent. Et après, il faut les observer. Et donc, c'est vrai que c'est un petit jeu sympathique.
C'est un petit marathon. On entend souvent parler de marathon Messier. Donc, 110 objets à trouver pendant une nuit. Alors, maintenant, avec les télescopes un peu de pointage automatique, ça n'a plus trop rien de marrant. Mais pour jouer le jeu, c'est de les chercher avec une vraie carte du ciel. Et puis là, vous verrez si vous réussissez à trouver 110 objets en une nuit.
Alors par contre, bon, pour ceux qui débutent en observation, je ne voudrais pas être pessimiste, mais déjà, si vous trouvez une dizaine, c'est déjà bien.
Ça sera déjà bien.
Parce que c'est vrai que faut connaître les constellations. Il y aura encore pointer au télescope pour pas qu'il soit trop loin, pour pas mettre 2 heures à se pointer dessus. Quoi.
Voilà, et il y aura encore quelques mois de mars dans les années suivantes. Voilà, ça sera traîné.
Vous pouvez déjà les noter hein, pour ceux qui observent. Vous notez vos objets de Messier que vous avez observés, puisque derrière, après, savoir que M1, etc., ça peut être soit des galaxies, soit des nébuleuses, soit des amas, c'est un peu...
Il faut rappeler que, je dirais, ces objets sont tous visibles. Observables au cours de l'année. Hein.
Tout à fait.
Là, c'est une configuration favorable pour pouvoir les observer tous en une nuit, mais bien sûr, la Terre tournant et le ciel ayant...
Différentes vues à
travers les saisons, vous pouvez bien sûr observer ces objets, je dirais, plus tranquillement au cours de l'année.
Donc pour résumer, Jupiter, Saturne, donc ça faut pas les louper, de manière.
Commencer à voir le lever de Vénus.
Vénus qu'on commence à récupérer. La comète qu'il va falloir récupérer que dans les poissons.
Voilà, qu'il va falloir observer.
Et puis, si on a envie de se faire un petit marathon, bon, pour ce soir, c'est déjà un peu tard, parce que pour ceux qui viennent de l'apprendre,
la nuit a déjà commencé,
bon.
Il y a déjà 3-4 heures de retard.
Voilà, il y a quelques heures de retard déjà, mais c'est vrai que ça se fait, c'est un petit jeu.
Hein. C'est faisable, pense que c'est faisable.
c'est un petit jeu à faire, donc on prendra les scores.
Voilà, pour je dirais, les dernières actualités du ciel.
Merci Frédéric, donc en plus, c'est vrai que l'avantage, c'est de... Vous pourrez voir, si vous avez, pour ceux qui ont noté, hein, vous n'avez plus qu'à vous pointer au ciel de Nantes et demander à voir tout ce que Frédéric vous a parlé, pour voir s'il ne vous a pas mené en bateau, mais on le connaît, de toute manière. Là, vous avez vraiment un petit ciel sympathique quand même ce mois-ci. Hein.
Je pense.
Facilement accessible en plus, il ne faudrait pas avoir des gros instruments. Donc, bien sûr, pour tout ce qui est Messier, plus on aura un gros instrument, plus on s'en sortira mieux, on verra plus de choses. Mais c'est vrai que l'avantage des objets de Messier aussi, c'est que c'est des objets qui ont été découverts par Messier, donc en 1500, je ne sais plus combien.
De 1757.
Voilà, ouais, bien. Et Olivier, on va le raviter, Olivier.
Bien d'avoir un historien.
c'est vrai qu'il connaît plus les dates que moi.
Et d'ailleurs, le catalogue avait été réalisé parce que Messier ne s'intéressait absolument pas à ces objets, mais pour ne pas les confondre avec ces fameuses comètes.
Ouais,
parce que
c'est vrai
que le furet des comètes, et que ces nébuleuses et galaxies, qu'on ne savait pas être des galaxies encore, le gênait terriblement parce qu'on pouvait les confondre avec une comète. Et pour ne pas les confondre, il a créé le premier catalogue de l'histoire de l'astronomie des objets flous, des objets nébulaires, quel catalogue Messier qui...
Voilà. Et en fait, les objets maintenant portent un nom M. M1, M103, voilà. M83, voilà. Etc. Donc il y en a 109. Ça nous fait une bonne nuit à faire. Hein.
Une bonne nuit.
Merci Frédéric. Tout de suite, nous allons continuer avec Olivier Sauzereau et on va parler de sa conférence qu'il a effectuée lors de la semaine de l'astronomie. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour une fois, nous n'allons pas vous passer d'interview du conférencier, puisque le conférencier est venu à Pulsan. Vous êtes toujours en direct sur Pulsan. Oui, non, c'est bon, j'ai rien dit. J'étais en train de me demander si je vais pas louper une partie de l'émission. Non, c'est bon. Donc, Olivier Sauzereau, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un astrophotographe reconnu, on va dire, puisqu'il a fait pas mal de parutions, et puis on le connaît aussi au niveau dans le monde de l'astronomie, puis même pour le public, tu as fait plusieurs exposés ou conférences, je pense. Hein.
Oui. Exposition en 1996 au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes,
ouais.
C'était Voyage aux étoiles, et puis depuis une quinzaine d'années, des tournées de mon spectacle audiovisuel, qui s'appelle Voyage aux étoiles également, à travers toute la France, dans des centres de vacances, et également durant le cadre de la Nuit des étoiles.
D'accord.
Également.
Donc, on sait aussi que donc, pas, passionné d'astronomie, bien sûr. Et puis, en fait, depuis quelques années, ça fait combien de temps que tu t'intéresses à l'histoire ?
Ça t'a piqué, alors, l'histoire de l'astronomie, c'est, bon, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis toujours, fait, on va dire. L'histoire d'ailleurs en général. Et ça, c'est un travail de recherche que j'ai commencé il y a 3 ans.
D'accord.
Exactement.
Donc, on peut voir qu'en 3 ans, on peut amasser un nombre d'informations assez impressionnant. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait venir lors de la semaine de l'astronomie. La semaine de l'astronomie, c'est 5 conférences. C'est un peu le marathon aussi des conférences, là. Bon, gars, il n'y en a que 5. Ce serait qu'on s'imaginerait même faire 109 conférences en une nuit. Ça va peut-être être difficile.
Ouais, ça va être dur.
Ça va être dur. Mais déjà, c'est un petit marathon, ce qui se déroule au Muséum d'Histoire Naturelle. Ça s'est déroulé du lundi au lundi 21 au vendredi 25 janvier. Et donc, la conférence que tu as faite, c'était le mardi 22 janvier, pour nous parler de Nantes au temps de ses observatoires. Et en fait, tu as surtout commis un livre. Un livre qui parle de ce sujet-là, t'en as commis un autre, c'est l'astronomie en 36 questions.
Absolument,
c'était,
oui,
un livre de vulgarisation au sens noble du terme.
Oui, ce sont les 30, étant photographe avant tout, donc il y a 36 photos dans une pellicule, mm-hmm, et ce sont en fait les 36 questions principales que j'ai remarqué que les spectateurs me posaient à la fin de mes conférences ou de mes spectacles audiovisuels, donc j'en ai déduit que ça devait être les principales questions qu'un néophyte se pose en s'intéressant à l'astronomie.
Il est toujours édité ou pas?
Il est toujours absolument dans les bonnes librairies.
Les bonnes librairies. Donc, l'astronomie en 36 questions, c'est quelles éditions ?
Aux éditions Le Temps Apprivoisé.
Le Temps Apprivoisé, noté.
Très et joli nom d'édition pour l'astronomie.
Voilà, c'est très bien. Et puis là, tu as donc, il est sorti il y a 2 ans, un an ?
Alors, l'astronomie en 36 questions, c'était en 1999.
D'accord, déjà. Et Nantes autour de ses observatoires ?
Est sorti il y a un an.
Un an, donc là, par contre, c'est le sujet de la conférence. Donc, c'est en fait des recherches que tu as effectuées. On va en parler justement tout de suite, bientôt, sur en fait Nantes et l'astronomie, et surtout les observatoires qu'il y a eu à Nantes, qu'il y a eu, malheureusement il n'y en a plus en service, mais on a eu des observatoires il y a quelques années. On va pas déflorer le sujet tout de suite. Donc c'est une conférence qui a été effectuée lors de la semaine de l'astronomie. Donc on va vous présenter rapidement un peu le sujet. C'est simplement Olivier, il va nous expliquer comment en fait. C'est poser la question, alors je ne sais pas exactement comment, comment tu as cherché des observatoires? Alors, c'est vrai que nous, dans la SANS, on était, la Société d'Astronomie en tant que telle a été créée en 1971, tu as été notamment un membre actif pendant plus d'une dizaine d'années, mais c'est vrai que moi, je ne me suis jamais... J'avais jamais imaginé qu'il y avait...
Nantes, effectivement, a priori, n'avait pas une tradition scientifique. C'est une ville plutôt de commerçants, c'est une ville marchande, avec un grand port de la marine marchande, sans université scientifique jusqu'en 1962, puisque même avant la Révolution française, où Nantes avait une université, il n'y avait pas de chaire de mathématiques ou de physique. Et donc, effectivement, l'idée qu'il y ait pu y avoir des observatoires astronomiques faisait sourire. D'autant que les conditions météorologiques, a priori, ne s'y prêtaient pas particulièrement, quoique. Mais bon. Donc voilà. Alors, le fait de s'intéresser à un patrimoine, à une histoire de l'astronomie à Nantes, remonte à mon enfance, enfin à mon adolescence, on va dire, à l'âge de 15 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser tout simplement à l'histoire de Nantes. Mmh. Et avec notamment un livre remarquable qui est la référence lorsqu'on veut s'intéresser à l'histoire de Nantes, notamment au Nantes 18e siècle, qui est la plus belle partie au niveau architecture, qui est le Nantes au 18e de Lelièvre, qui est la référence. Et dans cet ouvrage, comme dans beaucoup d'autres sur l'histoire de Nantes, il y a des gravures, et notamment des gravures représentant la place Graslin. Et seulement quelques gravures de la fin du 18e ou du début du 19e siècle représentant la place Graslin, on voit donc le théâtre, on voit la place telle qu'elle est aujourd'hui, rien n'a changé à part l'emplacement du Couic, mm-hmm, éventuellement, mais sinon tout est exactement à la même place, sauf sur ces gravures, sur 4 ou 5 gravures, apparaît une tour. Une tour qui, très mystérieusement, disparaît de toutes les représentations iconographiques de la deuxième moitié du 19e siècle, qui n'existe plus bien entendu aujourd'hui, et qui n'apparaît seulement que sur 4 ou 5 de ces gravures.
Donc la tour, elle apparaît
à droite du théâtre, au-dessus de ce qui est aujourd'hui l'Hôtel de France et le Couic.
D'accord.
Voilà. Et dès l'âge de 15 ans, lorsque j'ai remarqué cette tour, je me suis dit, tiens, si j'avais été astronome à cette époque-là, à la fin du 18e, début du 19e siècle, j'aurais fait de cette tour mon observatoire.
Donc là, piquer sur une idée, a priori, voilà.
Alors, il faut dire que mon premier observatoire était un balcon rue Jean de la Fontaine, pour les, tous les Nantais qui connaissent, c'est derrière le Théâtre Gralin. Donc c'était un quartier qui m'était déjà particulièrement cher. Alors pourquoi une tour observatoire ? Eh bien tout d'abord, la place Gralin, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, était le point le plus haut de Nantes. C'était de plus, c'est de plus une colline de granit, donc des assises particulièrement solides, sans vibrations. Une tour parfaitement alignée sur les points cardinaux, et puis une petite plateforme très confortable pour pouvoir y installer des instruments d'observation astronomique. Et cette idée, qui est une idée d'enfant, à l'âge de 15 ans, est devenue finalement une obsession. Et à un tel point que je me suis dit, ce n'est pas possible, il y a dû y avoir un astronome ou des astronomes à cette époque-là, puis qui a eu la même idée que moi, suis-je prétentieux, et qui a fait de cette tour un observatoire, peut-être même que cette tour a été un observatoire dès sa construction. Alors, devenant adulte, lorsque je me suis intéressé précisément aux classes du patrimoine et que donc j'ai pu travailler avec des architectes, des gens de service de l'inventaire, de la DRAC, des gens compétents de l'histoire de Nantes et de son architecture, j'ai commencé à poser cette question de l'existence de cette tour et qu'elle aurait pu être un observatoire. Et généralement, la réponse que l'on me donnait était étonnante, puisque bien souvent, beaucoup de ces personnes n'avaient jamais fait attention à cette tour qui, encore une fois, je répète, n'apparaît que sur 4 ou 5 gravures de cette époque-là. Et quant à l'idée que cela aurait pu être un observatoire, non, parce que s'il y avait eu un observatoire astronomique à Nantes, ça se serait su, et ce n'était dans aucun livre d'histoire de Nantes. Il y a bien eu l'observatoire météorologique du Petit Port, bien connu, cité par Julien Gracq dans La forme d'une ville, mais un observatoire astronomique, non, ça se saurait. Et cette idée, néanmoins, est restée en moi, comme une lubie qui est restée, et je me disais régulièrement, voilà, un jour, il faudra que j'aille aux archives pour faire des recherches. Les années sont passées, je me suis intéressé au patrimoine, à l'histoire de Nantes, je participais aux classes du patrimoine, j'ai eu d'autres petits indices qui semblaient me dire qu'il y avait peut-être eu effectivement quelque chose à Nantes autrefois. Notamment un indice, c'est que lorsque j'ai été membre actif de la Société Astronomique de Nantes, j'ai été le bibliothécaire de la SAN, et qu'un jour, donc c'était dans les années 83-84, j'ai reçu une lettre du conservateur de la Bibliothèque Municipale de Nantes, qui elle-même avait reçu une lettre de la bibliothécaire de l'Observatoire de Meudon, qui elle-même avait reçu un courrier d'un astrophysicien américain qui faisait une recherche sur des prétendues observations astronomiques de la supernova 1985 qui avait eu lieu dans la galaxie d'Andromède, qui a été une des plus formidables explosions d'étoiles, qui avait été visible en 1885 et qui, soi-disant, avait été observée par une société astronomique de Nantes. Et donc tout ce jeu de personnes m'avait demandé, est-ce que vous avez, vous qui êtes le bibliothécaire de la Société Astronomique de Nantes, des documents sur ces observations réalisées au 19e siècle ? Alors, première nouvelle, j'apprenais qu'a priori, il y avait eu une société astronomique à Nantes au 19e siècle, ce que j'ignorais totalement, et nous n'avions absolument aucun document sur ce sujet. Et je n'avais rien, malheureusement, pu donner à ces différentes personnes. Mais c'était un indice supplémentaire qui semblait vouloir dire qu'effectivement, il y a bien dû y avoir quelque chose autrefois. Alors, il y a 3 ans, j'avais un petit peu de temps de libre. J'attendais la sortie de mon premier livre, justement, L'astronomie en 36 questions. Donc, c'était l'angoisse de la sortie du livre. C'est comme un accouchement, c'est terrible. Il y a la dépression prénatale, postnatale, etc. Enfin, tout y passe. Et donc, ayant un peu de temps de libre, je suis allé aux archives municipales en me disant, tiens, je vais me consacrer une semaine. Puis, j'avais quelques indices et puis je vais regarder les quelques...
Pour essayer, quoi.
Au cas où, comme ça. Et en 3 jours, j'ai découvert qu'effectivement, cette fameuse tour, Place Gralin, au début du 19e siècle, avait bien été un observatoire astronomique. Et beaucoup mieux. Ça n'avait pas été un observatoire astronomique d'amateur, mais l'observatoire astronomique professionnel, officiel, financé par la préfecture, la chambre de commerce, la société savante de Nantes, qui était la société académique. Et puis, chose extraordinaire, et c'est que j'ai découvert qu'il n'y a pas eu 1, mais 2, 3, 4 observatoires successifs, et qu'en réalité, il y avait tout un passé astronomique extrêmement riche qui remonte au XVIIe siècle et qui va se terminer en 1887 avec la fermeture du dernier observatoire astronomique de la marine de Nantes. Alors, autant vous dire, je n'ai pas passé une semaine dans les archives municipales, je me suis piqué au vif, que j'y ai passé depuis 3 ans donc des recherches, que les archives municipales n'ont pas suffi, puisque je suis allé également aux archives départementales, à la bibliothèque municipale de Nantes, aux archives de la société académique, et puis surtout aux archives nationales, où j'ai j'ai trouvé beaucoup de choses à Paris, aux archives de la marine, au château de Vincennes, aux archives de l'Académie des sciences, à l'Institut, aux archives de la Société astronomique de France, aux archives de Météo France qu'est Branly, et j'en passe encore, et le travail continue de nouveau encore.
C'est ça qui est génial, en fait, donc, du livre. Tout part d'une idée d'adolescent de se dire c'est un peu bizarre.
D'une intuition.
Voilà, de... Et puis de se dire, voilà. Tu as eu de la chance aussi peut-être de trouver dans la première semaine des informations, parce que ça aurait peut-être lâché aussi.
Certainement, oui. Si on s'en dépend. Oui, oui. Et puis après, bah, c'est un travail de détective. La recherche, c'est quelque chose d'absolument passionnant. On fouille dans les archives, on découvre des anecdotes, et puis on fait revivre des personnages qui ont été oubliés, des personnages sympathiques comme Frédéric Huette, par exemple, qui est un personnage que j'adore, qui est totalement tombé dans l'oubli aujourd'hui et qui a été au 19e siècle l'opticien de la marine de Nantes. C'est une sorte, alors les membres de la Société astronomique de Nantes vont tout de suite connaître, mais c'est une sorte de monsieur Lasseur du 19e siècle, un opticien de génie, un fabricant de génie d'instruments d'astronomie et d'optique, un personnage extrêmement modeste en même temps, qui avait son atelier qui ne désemplissait jamais, donc ça ressemble beaucoup effectivement à monsieur Lasseur, effectivement, qui est notre ancien président de la Société astronomique de Nantes. Et ce Frédéric Huette a été un personnage très important, puisqu'il a été même le premier maire adjoint dans les grands événements de 1848, faisant même le rôle de maire à un moment donné. Mm-hmm. Donc c'est un personnage qui est très très important et que je suis en train donc de ressortir de l'oubli à partir des archives.
Donc on va justement... après, on va faire une petite pause. Après, on va aborder la suite de l'exposé. Donc là, en fait... je vais pas faire un résumé de ce qu'a parlé Olivier, mais c'est vrai que après qu'un nombre de recherches, t'es rendu à un point où tu as 4 observatoires astronomiques. Et en fait, le problème ou le partie géniale, c'est que c'est pas fini. Je veux dire, les recherches, après tu commences à essayer de comprendre les personnes qui ont travaillé dans ces choses, dans ces observatoires, les choses qui ont pu être faites au niveau astronomique.
Effectivement, la question que tout de suite on peut se poser, que les auditeurs peuvent se poser éventuellement, c'est pourquoi finalement faire de l'astronomie à Nantes, pas d'université scientifique, mm-hmm. conditions météorologiques moyennes par rapport
à d'autres villes,
etc. Pourquoi une astronomie aussi riche? Eh bien, tout simplement parce que cette astronomie était essentielle pour la ville de Nantes, puisqu'elle permettait aux marins d'aller à l'autre bout du monde avec un minimum de sécurité, puisque vous savez que pouvoir faire le point en plein milieu de l'océan, eh bien, autrefois, jusqu'à il y a seulement une trentaine d'années, seule l'observation des astres le permettait, c'était une sorte du GPS d'autrefois. Donc c'était l'observation astronomique était une pratique absolument essentielle pour l'économie nantaise, pour son port de la marine marchande, qui a été, on l'oublie un peu trop souvent aujourd'hui, l'un des ports de commerce les plus importants de France. Et pour donner la preuve de l'importance de cette astronomie nantaise, une grande partie des instruments des observatoires du 19e siècle étaient financés par la Chambre de commerce de Nantes.
Non, c'est en plus que c'est des instruments qui... Il y avait une partie aussi, même que tu avais horloges, etc., les horloges de marine,
absolument.
Qui permettaient en fait, bien sûr, de. On en a déjà parlé, de parler de la longitude. Et pour la longitude, il n'y a pas de secret, il faut savoir avoir le temps, mais précisément. Et en fait, comment faire que sur place, que de re-régler les fameuses horloges, que d'éviter de les envoyer dans un autre observatoire. Donc c'est vrai que quand on a un port important, il faut bien sûr un observatoire sur place.
L'observatoire de les deux observatoires de Nantes au 19e siècle, l'observatoire de la Maison Gralin, cette fameuse tour qui était donc place Gralin, et puis le deuxième observatoire du 19e qui est plus formidable probablement, qui est l'observatoire qui a été construit à Nantes spécialement, puisque tous les autres observatoires astronomiques à Nantes sont une utilisation postérieure d'un bâtiment déjà préexistant, tandis qu'en 1828, les Nantais vont construire un observatoire, un bâtiment, dans un but spécifique d'être un observatoire. Et j'avais pour preuve qu'à l'intérieur, il y avait des voûtes en pierre caractéristiques, comme à l'observatoire de Paris, à l'observatoire de Nice, ou comme dans n'importe quel observatoire, des voûtes en pierre, une architecture qui était là pour casser les vibrations qui sont si néfastes lorsque l'on fait des observations astronomiques.
Et précise. Donc, on va faire une petite pause. Donc, on se retrouve juste après pour détailler un peu le travail de recherche d'Olivier Sauzereau et un peu aussi vous expliquer un peu quels sont ces observatoires, parce qu'il n'a pas cité les 4. C'est un peu le but aussi. Il en reste, donc, à tout à l'heure. Nous étions en compagnie d'Olivier Sauzereau, qui est toujours là, qui, en fait, nous parlait un peu du sujet de sa conférence qu'il a donné lors de la semaine de l'astronomie, en fait, une conférence grand public qui a été donnée le mardi 22 lors de la semaine de l'astronomie. Et donc là, on est en train de vous... Pour ceux qui n'ont pas pu y assister vous faire enrager de ne pas avoir plus d'informations que ça, vous aviez qu'à venir. Et puis pour ceux qui ont insisté ou qui veulent un peu savoir un peu plus, bah vous parlez un peu du sujet. Donc Olivier, donc on a parlé en début d'émission qu'il y avait plusieurs observatoires qui ont fait une recherche suite à une idée d'adolescent d'avoir vu sur quelques gravures une tour observatoire à côté de Gralin, à côté du théâtre, au-dessus de l'Hôtel de France actuellement. Et puis en fait, avec quelques recherches que tu as commencé il y a à peu près 3 ans, tu as découvert qu'il n'y avait pas un que c'est d'abord c'était bien un observatoire, ce que tu pensais au départ, et puis qu'il n'y en avait pas un, mais 4. Donc là, on va commencer à aborder les fameux 4 observatoires. On va commencer donc par ordre chronologique, c'est ça ?
Oui, par ordre de création. Le premier observatoire, bon là aussi la définition du mot observatoire, faudra peut-être en faire une, enfin on va pas rentrer dans les détails. C'est un lieu donc à partir duquel on fait des observations astronomiques ou météorologiques. Alors, le premier lieu d'observation à Nantes, véritablement officiel, c'est l'hôtel de Brieur, que certains Nantais connaissent peut-être, dans la rue du même nom, de Brieur, à côté de la place du Pilori. D'accord. Et dont on voit toujours la façade du 15e siècle. L'hôtel de Brieur, c'était à l'origine l'hôtel de Pierre Landais, qui était le trésorier du duc François II de Bretagne. C'est un hôtel absolument fastueux. Et que les jésuites, en 1672, ont réussi à acquérir à la seule condition d'y enseigner l'hydrographie, c'est-à-dire l'art de la navigation, dans une ville jugée importante, telle que le port de Nantes. Et cet enseignement de l'hydrographie, qui donc va apparaître à Nantes en 1672 avec les jésuites, nécessitait un minimum d'apprentissage d'observation et de navigation astronomique.
Donc il fallait un observatoire pour apprendre, quoi.
Voilà, alors différentes observations astronomiques qui ont été réalisées, c'est essentiellement au cours du XVIIIe siècle, et en particulier dans les années, fin des années 1750 et début 1760, qu'il va y avoir un professeur d'hydrographie très intéressant, qui est le père Chardin. Alors, le père Chardin, c'est un Nantais de naissance. Il est né à Nantes, il est allé ensuite faire ses études, en particulier à Caen. Il a fait partie de l'Académie de Caen, il a été professeur de philosophie à Caen, et ensuite il est revenu dans sa ville natale, à Nantes, comme professeur de mathématiques et d'hydrographie à l'école d'hydrographie de Nantes. Et ce père Chardin est très intéressant parce que, tout d'abord, il détaille la nature de ses cours dans ce que l'on appelait alors les étrennes nantaises, qui était le beau teint jaune, on va dire, à l'époque, cours assez riches qui devaient durer 6 ans, alors c'était même un peu délirant d'ailleurs, et surtout le père Chardin a écrit dans ce qui était le journal de Nantes, le Presse Océan, ou l'Ouest France de Nantes dans les années 1760 sous Louis XV, un récit d'observation astronomique absolument formidable. Un récit d'observation que j'ai retrouvé donc dans ce journal de Nantes. Alors le nom de ce journal n'était pas court à l'époque, il s'appelait Les Annonces, Affiches, Nouvelles et Avis divers sur la ville de Nantes, et dans le journal du vendredi 12 juin 1761, en première page, le récit de l'observation du passage de Vénus devant le soleil par le père Chardin lui-même. S'ensuit un récit de près de 4 pages, absolument formidable, où on découvre que les astronomes nantais, que le père Chardin, mais également toute une ferveur peut-être pas populaire, mais en tout cas d'un certain nombre de citoyens de la ville de Nantes, notamment d'un certain Julien Groslot, qui va avoir une grande importance dans la ville de Nantes quelques 40 années plus tard. Julien Groslot, alors, à ce moment-là, est un tout jeune homme de 17 ans. Et tout ce petit monde va être autour du père Chardin, autour des lunettes des jésuites nantais. Alors, des lunettes assez impressionnantes, puisqu'il y avait des lunettes qui faisaient 3, 6, 12 et 21 pieds de longueur. Alors, en mètres, ça fait des lunettes qui faisaient jusqu'à 7 mètres de longueur. C'est tout à fait déjà considérable.
Ah, grandes.
Et alors c'était des grandes lunettes sans tube qui étaient montées sur des mâts, mais qui permettaient déjà de faire des observations astronomiques, d'observer les anneaux de Saturne, les satellites de Saturne et bien d'autres choses encore. Et ce récit d'observation nous permet donc de découvrir toute cette passion du père Chardin, de Julien Groslot et de ses différents citoyens nantais autour de ces lunettes ce 6 juin 1761 à Nantes. Et ça, c'est tout de même quelque chose de tout à fait excitant. Alors, après, les jésuites, en fait, vont être expulsés de Nantes et de Bretagne en 1762. Donc, cette dynamique des jésuites va être cassée nette avec cette expulsion. Il semble qu'il n'y ait plus d'observations astronomiques alors à partir de ce moment-là véritablement intéressantes, et il faudra attendre les guerres de Vendée avec la création d'une sorte de tour de guet au-dessus de la tour sud de la cathédrale de Nantes.
Donc là, on peut dire en fait que le premier observatoire qui était jésuite, qui était utilisé par les jésuites, il a été utilisé pendant plusieurs années et en fait ça s'est terminé lorsqu'ils sont fait entre guillemets expulsés.
Voilà.
Donc maintenant en fait là tu abordes le deuxième observatoire.
Deuxième observatoire. Donc là nous arrivons à la fin du XVIIIe siècle dans les années 1793, avec la création donc d'une tour de guet. Donc c'est une sorte de phare en bois qui apparaît sur différentes gravures ou peintures représentant la cathédrale de Nantes ou la ville de Nantes, et qui donc surmontait la tour sud de la cathédrale. Et à la fin des guerres de Vendée, eh bien cette sorte de tour de guet a servi à être un observatoire astronomique, et ce sera l'observatoire astronomique de Nantes jusqu'au moins dans les années 1815. J'ai retrouvé des preuves d'utilisation astronomique de cette observatoire jusqu'en 1815. Alors, l'anecdote, c'est que cet observatoire astronomique va permettre, semble-t-il, de toute évidence, de sauver la cathédrale de Nantes.
Ça veut dire qu'un espèce de tour de bois va éviter que la cathédrale soit détruite.
Oui, et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. En 1796, un citoyen nantais a eu l'idée étonnante de proposer aux édiles nantais du département de racheter la cathédrale de Nantes pour la détruire, la raser.
C'est totalement. Vrai qu'à l'époque, c'était pas très bon.
Pas tout à fait, oui.
Ouais, donc,
Et pour faire un alignement entre ce qui est aujourd'hui la rue du Roi Albert et la rue Prémion. Alors, les édiles du département étaient ennuyés face à cette proposition et donc ont demandé un rapport. Et la personne la plus qualifiée pour réaliser ce rapport sur le fait de vendre ou de pas vendre, et donc de détruire ou de pas détruire, était l'architecte, l'ingénieur des ponts et chaussées, qui est notre Julien Grolot.
Qui est
ce tout jeune homme qui, il y a 40 ans, avait observé avec le père Chardin le passage de Vénus devant le soleil. Et Julien Grolot, de toute évidence, qui a déjà sauvé le château de Nantes de la destruction, toute évidence veut sauver la cathédrale. Mais évidemment, il ne peut pas donner comme argument que la cathédrale est un lieu spirituel.
Et que nous, on appréciera de la voir plus tard.
Voilà. Alors, il commence son rapport par dire que la cathédrale existe depuis tellement longtemps dans la ville de Nantes qu'elle fait partie du paysage et qu'il serait dommage et regrettable de la détruire. Mais surtout, et c'est tout son rapport ensuite, il explique que la cathédrale de Nantes est le siège d'un observatoire astronomique de Nantes. Observatoire astronomique qui est essentiel pour l'économie de Nantes, puisque c'est là qu'on y forme les futurs capitaines au long cours à la navigation astronomique. C'est là qu'on y règle les instruments, et que donc c'est un établissement qui est absolument essentiel pour l'économie nantaise, et qu'il serait préjudiciable d'accepter cette proposition. Détruire la cathédrale et donc son observatoire est extrêmement coûteux à l'administration de reconstruire ensuite un autre observatoire.
En fait, il faut savoir, donc c'est la petite tour de guet que tu parlais tout à l'heure, il faut savoir en fait que c'est vrai que si on détruisait l'observatoire, le problème c'est qu'on savait parfaitement où il était situé en fait, puisqu'en fait depuis le temps qu'on l'utilisait, les gens savaient où il était situé, donc si on voulait le déplacer ou en créer un nouveau, il fallait refaire le calcul, repointer exactement où est-ce qu'il se situait.
Et puis pour c'était pouvoir très coûteux.
Et puis, c'est vrai que
et puis c'était très coûteux, et donc c'est à partir de cet argument-là que la cathédrale de Nantes, semble-t-il, n'a pas été détruite, et si elle domine toujours la ville de Nantes, c'est grâce à son ancien observatoire donc, astronomique.
Quoi, le tour de guet qui était en bois, donc qui n'apparaît, qui n'existe plus maintenant.
Alors,
en
fait. Qui n'existe plus. Effectivement, à partir des années 1811, l'ingénieur, l'architecte du département est alerté par le préfet parce que l'observatoire prend l'eau de partout, il commence à pourrir, des réparations, semble-t-il, y sont réalisées, mais très rapidement, cet observatoire ne répond plus du tout, effectivement, à des observations astronomiques qui deviennent modernes et de plus en plus précise. Ah, petite anecdote, les astronomes connaissent tous un ouvrage essentiel en observation astronomique qui sont les éphémérides du bureau des longitudes. Et à la fin de ces éphémérides, où il y a donc chaque année tous les phénomènes astronomiques et la position de tous les astres dans le ciel, il y a à la fin de ces éphémérides, sur deux pages, les coordonnées géographiques, latitude et longitude, des principales villes de France. Et donc à Nantes, par exemple, vous avez la latitude et la longitude avec le lieu précis d'où est calculée cette latitude et cette longitude. Et à Nantes, aujourd'hui encore, en l'an 2002, d'où est calculée cette latitude et cette longitude, la cathédrale de Nantes. C'est donc le souvenir encore de ces observations astronomiques qui, à l'époque, avaient été réalisées par Cassini, puisque la cathédrale avait déjà servi au cours du XVIIIe siècle comme observatoire astronomique, mais provisoire.
C'est vrai que c'est bien de retourner, je veux dire retomber sur nos pattes, mais ça de se dire encore que c'est encore utilisé. C'est vrai qu'on pourrait plus prendre un autre point, et on utilise encore la cathédrale pour pour pointer...
C'est la mémoire de ces observations astronomiques de nos ancêtres.
Donc on a vu le premier observatoire, celui des jésuites, le deuxième, celui de la cathédrale, donc qui a été étudié, en fait, qui prenait l'eau, qui a été
arrêté. Voilà, à partir des années 1815, et là, à partir de 1821, le préfet du département, qui était le comte de Brosse, qui était un homme énergique, avait bien conscience que l'existence d'un nouvel observatoire astronomique à Nantes devenait de plus en plus important, et il faudra attendre 1823, avec toute l'énergie de la Société Savante de Nantes, qui était la Société Académique de Nantes, et surtout de l'un de ses membres les plus actifs dans ce domaine, qui était Frédéric Huette. Frédéric Huette, qui était l'opticien de la Marine de Nantes, qui va avoir un rôle essentiel dans la vie de ces observatoires durant une grande partie du XIXe siècle. Et donc c'est en 1823, en mai 1823, que va être décidé par le préfet et le maire de Nantes d'utiliser une tour qui existait déjà, sur l'hôtel particulier de M. de Gralin, qui est à l'origine de ce quartier formidable, de cette ville idéale du XVIIIe siècle autour de la place Gralin. Et il existait donc une tour à droite du théâtre, et qui était idéale pour y faire des observations astronomiques. Et cette tour, à partir de 1823, va devenir l'observatoire astronomique officiel de Nantes. On l'appelle alors l'observatoire de la maison Gralin. Et sa mission première est d'y régler les chronomètres de marine, qui sont alors le GPS d'aujourd'hui, on va dire, qui étaient des instruments à bijoux de technologie, on va dire, extrêmement coûteux, puisque un chronomètre valait le prix d'un salaire annuel, à peu près, d'un commissaire de police à Nantes à cette époque-là. Pour donner un ordre d'idée, un chronomètre à cette époque-là, ça valait peut-être le prix d'une BMW aujourd'hui, vous voyez, pour donner un ordre d'idée. Donc c'était des instruments extrêmement précieux, coûteux, et qui devaient être réglés avec une précision formidable, dont seule l'observation des étoiles le permettait. Donc cet observatoire de la Maison Gralin va jouer en fait le rôle d'une sorte de mini-observatoire de Greenwich. Bien entendu, on va y réaliser également d'autres observations astronomiques.
Des observations pas que de régler, quoi.
Non, on y observe des observations de comètes, etc., des satellites de Jupiter. Et cet observatoire de la Maison Gralin fera même la une du journal de Nantes, qui était le Breton, alors à ce moment-là, pour y relater les différentes observations qui y sont réalisées.
Donc en fait, quand tu fais tes recherches, tu prends tous les journaux.
Voilà, oui, la presse nantaise, effectivement, a été source de beaucoup de découvertes.
Et confirmation
d'anecdotes, de récits, mais travail très long, effectivement, oui, parce que c'est journal jour par jour, et puis il y avait plusieurs journaux à Nantes à ce moment-là aussi. Donc ça a été un très très long travail.
Un petit travail de fourmi. Donc là, c'est le troisième observatoire, donc une tour qui a été... Qui existait à l'époque, elle existe toujours ?
Non, cette tour va disparaître en 1835, lorsque cet observatoire n'existera plus, parce qu'il va exister alors un quatrième observatoire, et cette tour de la Maison Gralin va disparaître avec la création de l'Hôtel des Voyageurs, à partir de 1835, qui était rue Molière, le long du Théâtre Gralin. Car en 1828, un nouvel observatoire va être créé.
Donc là, le quatrième.
Le quatrième, comme je le disais tout à l'heure dans l'émission, l'un des plus intéressants, puisque là, c'est un bâtiment qui est construit dans l'idée même d'être un observatoire avec une architecture et une construction spécifiques. C'est un observatoire qui est construit par l'un des plus grands architectes de Nantes à ce moment-là, qui est Jean-Baptiste Blon, qui est celui qui a fait la place Mélinette, avec Amouroux, qui est l'une des plus belles places à programme de France. Et cet observatoire va également être le siège de l'école d'hydrographie, qui avait alors une salle de cours pouvant contenir 600 personnes. Ça donne une idée de l'impact et de la taille de ces différents bâtiments.
Mais c'est vrai que ça veut dire que s'ils avaient 600 personnes, c'est qu'il y avait du volume, il y avait du travail.
Il y avait du travail, et cet observatoire va être l'observatoire astronomique de la marine de Nantes, et ce qui est très intéressant, c'est que ce bâtiment, à l'intérieur duquel on y donnait également des cours publics pour les ouvriers, c'est la grande mode à ce moment-là de cours du soir pour les ouvriers, des cours gratuits, et ces bâtiments, donc qui sont l'école d'hydrographie, l'observatoire, les cours publics, etc., tout cela, c'est sous le même nom, l'observatoire. Voilà. Et il y a trois jours, j'étais encore aux archives municipales, et je suis en ce moment dans la presse en 1857, et pour une sorte de tombola, justement, qui a eu lieu dans la salle de cours de l'école d'hydrographie, enfin que je sais être l'école d'hydrographie à ce moment-là, dans le journal de Nantes, on dit « à l'observatoire ». rue d'accord. Du Foutre. Voilà. Donc tous les Nantais savent
que l'observatoire, on sait voilà. de ce que c'est. Quoi.
Voilà.
Pour eux, c'est parlant. Donc là, on a notre quatrième observatoire.
Qui, lui, va avoir la durée de vie la plus longue, puisque cet observatoire est en fonctionnement durant 60 ans, jusqu'en 1887.
D'accord. Donc le bâtiment, lui, existe toujours, par contre.
Chose fantastique, ouais. Voilà. Ce bâtiment existe toujours. C'est le dernier témoin de ce passé astronomique qui est certes modeste comparé à d'autres villes qui ont réalisé des découvertes formidables, qui ont eu des très grands observatoires, mais qui est néanmoins réel, qui est un passé astronomique qui est véritablement très important, qui est riche et qui est sans interruption durant tout de même près de deux siècles.
Donc c'est notamment l'observatoire qu'on voit sur la gravure de
voilà,
ton livre.
Voilà, qui est cette fameuse tour située donc au 18 rue de Flandre, à l'un des points les plus hauts de Nantes, judicieusement placée, puisque la rue de Flandre partait directement pratiquement de la capitainerie du port de Nantes. Donc il suffisait de descendre la rue de Flandre et on arrivait directement au port et vice-versa. Et sur les gravures où on voit donc le port de Nantes depuis la butte Sainte-Anne, par exemple, on observe très très bien cette tour, effectivement, qui surmonte la ville de Nantes, d'où on y réglait donc ces fameux instruments qui allaient être embarqués à l'intérieur des marins, des voiliers de la marine marchande nantaise.
C'est vrai qu'on en a parlé dans des précédentes émissions, parce que la feuille est détruite, on a eu un peu peur.
Effectivement, la chose absolument incroyable, c'est qu'au moment où j'ai révélé officiellement aux édiles nantais l'existence de cette tour et de son histoire tout de même formidable, eh bien cette tour a failli être vendue par son propriétaire qui en ignorait son histoire, donc c'était en toute bonne foi, et elle a failli, semble-t-il, être vendue à un promoteur, et heureusement les différents responsables administratifs, bâtiments de France, etc., services de l'inventaire, ont fait tout ce qu'il fallait pour faire en sorte à ce que ce bâtiment soit mis hors péril le plus rapidement possible. Donc on peut dire, je pense aujourd'hui, que ce patrimoine astronomique, qui est en mauvais état néanmoins, est cependant sauvé d'une destruction.
Mais maintenant, on le sait, donc on surveille en plus.
Voilà.
Mais donc, par contre, est-ce qu'avec ces informations, tu pourrais maintenant répondre à l'Américain qui a fait ses recherches, qui avait écrit à l'Observatoire de Paris, etc.
Et oui, je pourrais y répondre aujourd'hui, sauf que malheureusement, je n'ai pas les manuscrits de cet ancêtre de la Société Astronomique de Nantes. Il reste encore à découvrir, ces manuscrits. Mais effectivement, il y a bien eu une Société Astronomique à Nantes au XIXe siècle qui a été créée en 1884. Alors, cette création est très intéressante parce qu'elle va être réalisée, cette création de cette Société d'Astronomie à Nantes, dans le cadre d'une ferveur populaire sans précédent à Nantes, pour l'astronomie, sans précédent, peut-être même par rapport à d'autres villes de France. J'en veux pour preuve que la Société Astronomique de Nantes est probablement la première société astronomique française et qui a été créée même 3 ans avant la célèbre Société Astronomique de France de Camille Flammarion lui-même. Okay. Cette Société Astronomique de Nantes va être créée dans un cadre d'une ferveur populaire absolument formidable. J'en veux pour preuve toujours mes articles de presse en janvier 1884, une comète est apparue dans le ciel qui n'était pas très spectaculaire, ce n'était pas la comète Elbop, donc pas très facile à voir, et les journalistes nantais ont révélisé d'ingéniosité pour expliquer aux néophytes nantais comment observer cette comète, et je pense même que beaucoup de vulgarisateurs et de journalistes pourraient en prendre de la graine. Alors je lis quelques extraits très rapidement dans le Progrès, dans le Phare de la Loire du 3 janvier 1884. Le journaliste explique qu'en se plaçant à 8 heures entre la pharmacie et le café de l'univers, Place Gralin. Et en regardant à l'ouest, c'est-à-dire au-dessus de l'Hôtel de France, on distingue, si le temps est bien clair, 2 étoiles toutes petites, placées l'une au-dessus de l'autre et directement au-dessus de la porte cochère de l'hôtel. C'est la plus basse qui est la comète. Elle apparaît à l'œil nu comme nébulosité vague et sans scintillement, mais dans une simple lorgnette de théâtre, il n'y a pas de doute, la queue se dessine et le noyau devient lumineux. Et il s'ensuit d'autres explications où le journaliste explique que toujours à 8 heures, si on se place place Royale devant le Crédit Général de France, un grand carré d'étoiles est alors visible au-dessus de la rue Crébillon et la comète est observable directement au-dessus de la maison d'orfèvrerie Christophe située tout près de la rue des Vieilles Douves. Enfin, depuis le bout du pont d'Orléans, juste devant la maison du Ragouteux, bien connu encore des Nantais aujourd'hui, le même carré d'étoiles est visible au-dessus de la rue d'Orléans avec la comète qui domine le magasin de papier peint.
Alors à côté, vous avez Frédéric Briand qui vous dit la comète, elle est dans les poissons. T'en prends de la graine, Fred, comme des explications. Comme ça.
Avec la date, on pourrait retrouver où elle
absolument,
était.
Absolument, mais c'est tout de même un travail qui est intéressant parce que là, le journaliste, il a fallu qu'il se déplace avant, qu'il repère parfaitement les lieux. Donc c'est tout à fait intéressant et j'ai pu remarquer que dans la presse, effectivement, il y avait des attroupements. Les Nantais avec leurs feuilles de chou préférées à essayer avec une lorgnette à repérer la comète, etc. Il y eut une telle ferveur populaire que lors d'une éclipse totale de lune du 7 octobre 1884, éclipse totale de lune annoncée avec fracas par toute la presse nantaise, et cette éclipse totale de lune, qui devait se produire dans des conditions formidables, parce que la météo était absolument cristalline à ce moment-là, un ciel extrêmement pur, cette éclipse totale de lune avait la mauvaise idée de se produire au même moment qu'une représentation d'opéra au théâtre Gralin, et que les spectateurs du théâtre voulaient voir l'un et l'autre. Il a fallu donc rallonger les entractes, parce que à chaque entracte, eh bien, la salle du théâtre Gralin se vidait sur la place. Quel beau spectacle tout de même, pour admirer le spectacle de l'éclipse totale de lune depuis les marches du théâtre Gralin et de toute la place. Et à chaque coup de sonnette de fin d'entracte, la place Gralin de nouveau se rentrait dans le théâtre. Et tout cela, explique le journaliste le lendemain dans le Progrès de Nantes, tout cela ne s'est pas fait sans heurts, brutalité, énervement, faits divers. Alors, cette ferveur populaire, cette passion de l'astronomie à Nantes, qu'on aurait bien du mal, je dirais, à ce point-là, à retrouver même aujourd'hui, et ça rappelle néanmoins des phénomènes tels que le 11 août 1999, eh bien, a fait qu'une société astronomique va être créée à Nantes, et devinez où ? Eh bien,
à l'Observatoire.
À l'Observatoire, bien entendu, à l'Observatoire astronomique de la Marine, rue de Flandre. Alors cette société va avoir une existence intéressante durant les premières années. Son programme est le programme, on va dire, de la Société astronomique de Nantes aujourd'hui. C'est un programme de conférences, c'est un programme dont le but est de faire découvrir l'astronomie au plus grand nombre. Des observations astronomiques y sont réalisées depuis l'observatoire de la rue de Flandre, où le matériel scientifique est mis à la disposition des astronomes amateurs. Et en 1885, effectivement, ils font toute une série d'observation de la supernova 1885 Andromède, c'est-à-dire de cette explosion d'étoiles formidable. On ne savait pas alors que c'était une explosion d'étoiles, mais de cette nouvelle étoile qui est apparue dans le ciel. Malheureusement, cette société va avoir une durée de vie très très courte, due à deux facteurs probablement. Tout d'abord à la mort de l'un de ses secrétaires généraux, M. Grassmayer, qui est un jeune homme qui va mourir en 1886, et puis aussi à la fermeture de l'Observatoire astronomique de la Marine en 1887, et cette toute jeune société n'a probablement malheureusement pas pu survivre à ces deux événements tragiques.
C'est vrai qu'après, c'est la Société d'astronomie de Nantes, non pas la Société astronomique de Nantes. Je sais pas pourquoi ça a été créé en 1971. C'est vrai qu'on a eu une grosse éclipse quand même de plusieurs années, mais c'est vrai que c'est génial de se dire qu'il y a quand même une Société astronomique à Nantes dans les années 80, 1880, on va dire. Donc là, on a balayé, parce qu'on dit, vous voyez bien, vous entendez bien que Olivier Sosereau est passionné, donc il pourrait vous en parler pendant plusieurs heures. Je vous rappelle de toute manière, déjà, il y a son livre qui est rendu à sa deuxième édition, c'est ça ?
Oui.
Donc c'est Nantes au temps de l'observatoire, aux éditions Coiffard.
Aux éditions Coiffard.
Qu'on peut trouver dans la librairie du même nom.
Absolument.
Ou alors dans les autres librairies. Et autrement, bien sûr, un livre qui a déjà été primé, en plus.
Oui, oui.
Parce qu'en fait, vu que c'est sa deuxième édition, on a déjà eu le droit.
Alors oui, ça c'est la chose vraiment agréable, très agréable, effectivement. Il a eu le prix Léon Maître de la Société archéologique et historique de Nantes et de Loire-Atlantique, j'allais dire de Loire-Inférieure, comme dirait M. Lasseur. Mm-hmm. Quand on est dans les archives, on parle effectivement toujours de Loire-Inférieure. Et puis il a eu un deuxième prix, très prestigieux aussi, qui est le prix de l'Académie de Bretagne, le prix Loire-Atlantique 2001.
Donc vous pouvez encore vous le procurer puisqu'il vient juste d'être réédité. On sait qu'elle était en rupture de stock pendant
pas longtemps. Pas très longtemps.
On a vidé les stocks lors de la semaine de l'astronomie justement pour répondre à la demande. Et puis après, elle était éditée dans les jours qui suivaient. Donc c'est vrai que c'est très bien. Et puis maintenant, on va parler peut-être. Bon, je ne vais pas dire qu'on va arrêter de parler d'histoire, mais maintenant deux petites choses. Déjà, maintenant, à quoi ça sert de ce travail, à quoi ça va servir ou à quoi ça sert actuellement, et puis aussi quelle est l'actualité, on va dire, de ton travail actuellement, quoi.
Alors, effectivement, ce patrimoine astronomique, aujourd'hui, donc, il existe, il y a ces bâtiments, il y a cette tour, il y a tout ce passé astronomique, qui est plus riche qu'on pourrait le penser encore, puisque l'astronomie est en fait symbolisée dans beaucoup d'endroits de la ville de Nantes. J'en veux pour preuve, d'ailleurs, tout simplement sur la façade de la mairie de Nantes, où le symbole même de l'astronomie est gravé dans la pierre comme élément essentiel pour son économie. L'astronomie est symbolisée dans le passage Pommeraye également. Elle est symbolisée sur différentes façades d'hôtels particuliers, d'armateurs du 18e. Il y a de très belles méridiennes également, ces fameux cadrans solaires qui ne donnaient l'heure qu'à midi précise. Et bien, ce patrimoine astronomique est pour moi un élément absolument formidable pour le public scolaire en particulier, parce que cette utilité, cette utilisation de l'astronomie dans les siècles passés à Nantes pour des buts très précis, pratiques, de navigation astronomique, est riche d'enseignement et de pédagogie d'une manière absolument très forte. Alors c'est pour cette raison que j'essaye de mettre en place, que je mets en place, puisque
ça, c'est sa part.
Après-demain, ça démarre, ces classes du patrimoine astronomique dont l'idée est de réaliser une immersion des élèves d'une classe dans le patrimoine astronomique de Nantes, en faisant découvrir à ses élèves tout ce qui gravite autour de ce patrimoine, c'est l'organisation de la ville autour de son port, c'est la découverte de la symbolique de l'astronomie, de la mesure du temps et de l'espace dans la pierre, dans la sculpture nantaise. Ces élèves vont découvrir également, vont redécouvrir par eux-mêmes, en faisant un petit peu le même travail que moi j'ai pu réaliser dans les archives, mais naturellement concentré sur une demi-après-midi avec des archives ciblées. Donc là, c'est un atelier que j'ai réalisé en partenariat avec le service pédagogique des archives municipales de Nantes, où les élèves vont pouvoir découvrir les originaux même, sous protection Millard, bien entendu, sous toute la protection nécessaire, mais vont pouvoir redécouvrir quelques-uns de ces documents du 18e et du 19e siècle, et grâce à différentes fiches pédagogiques que j'ai créées, vont pouvoir redécouvrir ce passé astronomique de Nantes. Il y a aussi un autre atelier où un autre groupe vont réaliser un cadran solaire de poche du 18e siècle, qu'on appelle un cadran solaire diptyque, diptyque parce qu'il y avait deux cadrans solaires, un vertical et un horizontal, de poche parce qu'on le pliait, on le mettait dans sa poche, et c'était la montre du voyageur qui pouvait, en se déplaçant dans n'importe quelle ville, il pouvait ainsi savoir l'heure. Alors ces petits cadrans solaires de poche du 18e siècle ont une ornementation artistique extrêmement riche, extrêmement belle, et donc c'est la découverte également de cet art de vivre du 18e siècle, de ces objets qui sont tout simplement beaux, en plus d'être pratiques.
C'est aussi un prétexte pour redécouvrir l'architecture de Nantes.
L'architecture, l'organisation de la ville autour de son port, les chantiers navals, et c'est également l'occasion de découvrir le patrimoine instrumental de l'École nationale de la marine marchande, puisqu'il y a une descendante de cette histoire des observatoires, en plus de la Société astronomique de Nantes aujourd'hui, il y a une autre descendante qui est l'École nationale de la marine marchande. Il y a toujours une école d'hydrographie à Nantes. D'ailleurs, les vieux marins disent toujours l'hydro. C'est toujours d'ailleurs marqué l'hydro en dessous de l'École nationale de la marine marchande, qui est située au bout du quai de la Fosse, juste avant la chambre de commerce et la capitainerie du port, et que cette école donc possède un important patrimoine instrumental intéressant, et dont ces fameux chronomètres de marine du 19e siècle, dont ils ont une collection intéressante. Et enfin, pour terminer, comment font les navigateurs aujourd'hui? On se sert toujours d'astronomie, d'une certaine manière, parce qu'on se sert du GPS, et le GPS, ce sont des satellites, donc là aussi, c'est de l'astronomie. Et donc, à la fin de ce séjour patrimoine, ou de cette classe du patrimoine, les élèves vont découvrir les outils les plus importants au niveau technologie à l'École nationale marine marchande, avec notamment les simulateurs de navigation qui permettent d'apprendre les techniques de navigation, à se positionner, et les techniques de navigation aux futurs capitaines au long cours.
Il ne faut pas oublier qu'un GPS, ça peut tomber en panne.
Et ça peut tomber en panne, et la capitaine au long cours a toujours une formation de navigation astronomique.
Il faut savoir aussi que c'est géré par les militaires américains, donc ce qui veut dire aussi qu'ils ont la possibilité, vu que ces andouilles européens qu'on ne va pas nommer, qui nous gouvernent ou qui sont au Parlement européen, ont décidé d'abandonner le projet européen de système de GPS. Sont gouvernés par les militaires américains, et qu'en temps de guerre, rien ne leur empêche de tout dérégler.
Absolument.
Et puis surtout que ça peut tomber en panne. Donc ça, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des cours d'astronomie
qui sont professés. Donc l'idée, c'est de faire découvrir donc aux élèves tout ce passé, qui a des passerelles extrêmement intéressantes donc vers l'architecture, l'art, les mathématiques, la physique, l'art de vivre au 18e, l'histoire de Nantes, etc. Donc il me semble que c'est ce patrimoine astronomique, une sorte de miroir qui catalyse en fait l'histoire de Nantes, l'histoire des voyages, l'histoire de Jules Verne également, et qu'il est très intéressant, il me semble, qu'il y a, je pense, une piste culturelle, pédagogique qu'il faut poursuivre. Et ben, j'espère que
ça sera aidé.
Donc, voilà. Et je voudrais terminer aussi par dire que ce travail de recherche historique n'est pas terminé et qu'il y a encore tout un passé astronomique encore à découvrir, beaucoup de détails.
Je crois que j'étais encore
aux archives. Voilà. Dans 15 jours, je retourne aux archives nationales de nouveau et qu'il y a donc tout un travail de recherche encore à continuer sur ce sujet.
Alors les personnes qui sont intéressées par le sujet, donc il y a le fameux livre d'Olivier Sosereau qui, on va dire, qui compile tout ce qu'il vous a dit. Bien sûr, il n'a pas pu tout mettre, je pense. Ça serait affreux de faire un livre.
Oui.
Parce qu'on est obligé de sucrer, je pense, beaucoup trop d'informations. Et puis, ben, bien sûr, il y a l'association Éveil et Patrimoine. Donc, tu diriges, en fait, le projet qui consiste
le
à la partie
astronomie, oui.
Astronomie de Nantes. Donc, si vous voulez plus de détails, soit vous adressez à la Société d'Astronomie Nantes, on fera suivre. Ou bien sûr, vous voyez directement la partie Éveil et Patrimoine en téléphonant au 02 40 89 49 87 pour la partie astronomique de Nantes. Et bien sûr, bah, pour les élèves qui vont assister au premier séjour du patrimoine, on va espérer que ça se passe bien. Et puis, il ne faudra pas hésiter à venir nous en parler à une prochaine émission de ce que c'était, comment les élèves ont ressenti un peu la chose. Et puis, j'espère que ça va quand même continuer. C'est toujours intéressant que les élèves apprennent même l'astronomie dans tous les sens du terme. C'est toujours très bien. Merci beaucoup, Olivier.
Merci.
Je vous rappelle que tu étais invité dans le cadre notamment de ta conférence que tu as effectuée lors de la semaine de l'astronomie, une conférence magistrale. Il faut pas hésiter à le dire. Et donc, on te réinvitera pour reparler, ne t'en fais pas, lors de prochaines émissions. Tout de suite, Fabrice Dubreuil va arrêter ses conneries pour être poli. Et va pouvoir parler enfin, quand il va avoir le droit, c'est-à-dire en dehors des plages musicales, des actus astro. À toi, Fabrice.
Oh bah, tout de même.
Tout de même. T'es tellement pressé d'avoir le micro que...
Bah ouais. Donc, ce mois-ci, comme d'habitude, hein, plein de choses à dire. Et on va commencer par le télescope Hubble, parce que vous l'avez sans doute vu à la télé ce soir, si vous avez pris vos informations télé, si vous avez une télé. Hubble est arrivé depuis hier matin à Navette Columbia, puisqu'il subit l'opération de maintenance, comme il y en a déjà eu trois.
Routinier,
il y en a déjà eu trois. C'est la quatrième, il y en aura une cinquième en 2004. Et donc, c'est l'occasion de mettre à jour le système de télescope, puisque bon, il a quand même été lancé il y a 12 ans, et qu'à l'époque, les systèmes informatiques, entre autres, n'étaient pas les mêmes. Et aussi de changer les panneaux solaires, ils vont en mettre des plus grands, de changer la caméra numérique, puisqu'on va faire maintenant des observations panoramiques sur grand angle, et de changer le système de refroidissement de la caméra infrarouge.
C'est-à-dire qu'il y a une partie entretien,
oui.
Et puis une partie évolution.
Donc la caméra numérique, entre autres, ça va être une sacrée évolution. Et il y a signalé quand même que les panneaux solaires et la caméra numérique sont fabriqués par les Européens.
Tout à fait.
Parce que bon, les panneaux solaires de Hubble, ils peuvent être fabriqués d'ailleurs qu'en Europe, puisque c'est le laboratoire.
Claudie, évite de mettre la musique. Voilà,
c'est joli.
Merci.
J'ai le droit de la musique.
Tu peux répéter la fin, ce Claudie, la réalisation, mettre de la musique, c'est cool, c'est pénard.
Je disais simplement que les panneaux solaires, de toute façon, de Hubble, ne peuvent être construits qu'en Europe, puisque seul le laboratoire de l'ESTEC en Hollande est assez grand pour les tester.
Donc tu l'as dit, les panneaux solaires et la caméra
sont européens.
Voilà.
Ce qui est une bonne chose. Donc Hubble aura une nouvelle mission d'entretien en 2004, et il devrait normalement durer comme ça jusqu'en 2010. Et en 2010, on doit normalement lancer son successeur. Ça, c'est à voir. Disons quand même que la mission de maintenance de Hubble a failli se terminer vite fait, puisque une heure et demie après avoir décollé, Columbia a été victime d'une panne. Son système de refroidissement est tombé en panne, c'est le moment de le dire. Et le système de refroidissement de Columbia, elle sert à protéger l'électronique de la navette quand il y a descendu sur Terre. Puisque bon, ça chauffe pas mal, les briques de céramique c'est bien joli, mais quand même l'électronique il chauffe pas mal, donc il faut le refroidir, et normalement il y a deux systèmes de refroidissement, il y en a un qui est en panne. Apparemment les techniciens de la NASA ont dit que ça suffirait quand même pour redescendre sur Terre, donc
ils vont avoir chaud,
mais bon, ça va aller. Ce qui est paradoxal, c'est que la navette elle avait été retardée dans son lancement, non pas à cause d'un coup de chaud, mais à coup de froid, puisqu'il a fait trop froid à Cap Canaveral.
Et donc quand il fait froid, la navette, il la lance pas.
Non, il la lance pas, parce que la dernière fois qu'il a fait très froid comme ça, c'était en 86, le joint a gelé, le Challenger a décollé, elle a explosé.
D'accord.
Puisque le joint a cassé, puisqu'il était gelé, et aussitôt, des gaz enflammés dans le réservoir cryogénique, c'est jamais très bon.
D'accord, donc là, ils ont pris des...
Donc maintenant, il y a des mesures de sécurité, en dessous d'une certaine température, qui est de, je ne sais plus combien, 2 ou 3 degrés, on ne lance plus la navette.
D'accord.
À bord de l'ISS, la station spatiale, c'est Atlantis qu'on attend quand Columbia sera descendue. Elle va décoller en avril, début avril, pour amener les premières pièces d'armature de la station. La grande armature qui fera 110 mètres sera finie. Mm-hmm. Et donc, pour ça, ils sont sortis, les deux astronautes sont sortis pendant 6 heures dans le vide pour installer des points d'attache et des outils pour bricoler quand ils vont arriver dans un mois, que tout soit prêt, que le terrain soit préparé. Enfin bon, on prépare le terrain.
Parce qu'un détail, c'est qu'il faut prendre des points d'attache. En fait, c'est souvent des points d'attache pour arrimer la nouvelle partie. Mm-hmm. Il y a aussi des points d'attache. Il faut savoir qu'il y a, des poignées extérieures à la station spatiale
pour se tenir,
puisqu'en fait il n'y a pas de sol, ça bouge tout seul, donc faut pouvoir se tenir.
Mais bon, malgré tout, on annonce des grands travaux, mais il faut quand même dire que l'avenir de la station est quand même peut-être menacé quand on voit les budgets de la NASA, puisqu'en 2003, à la NASA, les budgets ont été votés, et donc on enlève 350 millions au budget dédié à la station, et 700 millions de dollars à ceux destinés aux vols habités, et très sérieusement, en plus, on annonce qu'on va privatiser l'exploitation des navettes, comme ça. Ça règle le problème, c'est la nouvelle politique américaine de spatiale. Heureusement, en Europe, ça se passe beaucoup mieux.
Bah, on est en Europe.
Allez, on est en Europe. C'est même, je dirais, c'est le beau fixe, puisque ce mois-ci, il y a quatre événements importants. D'abord, et pour la 60e fois d'affilée, il faut quand même le signaler, Ariane 4 a décollé sans problème et a placé un satellite de télécommunication, Intelsat 904. C'est le 20e du genre, il y en aura encore trois autres à venir derrière. Dans les 40 satellites qui sont en commande en lancement. Donc, elle a décollé le 23 février, il n'y a pas eu de problème. C'est une preuve de plus qu'elle marche bien, ce lanceur. Lanceur qui, d'ailleurs, devrait être abandonné d'ici la fin de l'année, peut-être un peu plus, début 2003 peut-être, pour être remplacé définitivement par Ariane 5. Ariane 5 aussi a très bien fonctionné le 1er mars, donc vendredi matin.
Et là, c'était vraiment, les infos sont fraîches. Hein.
C'était vraiment un vol très attendu, et là, je peux vous... J'ai un témoignage direct pour vous dire qu'il y avait une certaine tension au CNES à Paris, puisque j'ai un petit frère qui y travaille. Et donc, ils attendaient ce vol, puisque le dernier vol d'Ariane 5, si vous vous rappelez, ça n'avait pas très bien fonctionné. Le satellite Artemis avait été placé trop bas. Le satellite japonais était carrément descendu plus vite qu'il était monté. Mm-hmm. Enfin bon, ce n'était pas très bien placé. Donc, on attendait avec anxiété le lancement. Et, et puis en plus, un autre souci, c'est que ce qu'on a lancé avec Ariane 5, c'est le satellite Envisat. Et Envisat, c'est un satellite européen, c'est un poids lourd, c'est un monstre de 8 tonnes et demi qui a coûté 2,4 milliards quand même, et qui va observer la Terre, mais sous toutes ses coutures, puisqu'il y a 10 caméras, capteurs et autre chose, et autres engins à bord, on va tout savoir de la Terre. Et ça a été sans problème. Au bout de 26 minutes et 40 secondes, Envisat est sur orbite, et quand on dit sur orbite avec Ariane 5, c'est sur son orbite d'exploitation. Il n'y a plus besoin de faire de manœuvre, plus rien. Il est en place, on peut l'utiliser tout de suite.
Impeccable.
C'est vraiment ce qui est important sur les lanceurs européens. Et d'ailleurs, ce qui fait leur force, c'est que quand ils lancent un satellite, il n'y a pas besoin de le déplacer après. Sauf pour Artemis, justement. Mais Artemis, c'est justement l'une des bonnes nouvelles du mois encore, qu'Artemis donc, avait été placé beaucoup trop bas, à 17 000 km d'altitude, alors qu'il devait être à 36 000. Il y avait quand même un gros trou.
Parce qu'en fait, il y a eu une défaillance de la fusée.
Hein. Par le dernier vol d'Ariane 5, et Artemis...
L'avant-dernier,
oui, ouais. le 510, puis 511 qui a décollé. Mm-hmm. Et donc, l'avant-dernier vol d'Ariane 5 avait un peu raté, mais sur Artemis, il y avait deux systèmes de propulsion. Il y a un système de propulsion Ergol, comme
dans tous les satellites.
Comme tous les satellites, donc qui a permis d'amener le satellite jusqu'à 30 000 km à peu près d'altitude, en faisant des manœuvres très précises. D'ailleurs, le technicien de l'ESA là-dessus était très bon. Et puis, derrière, on a utilisé la nouveauté du satellite Artemis, qui est un propulseur ionique. C'est tout bête, mais il n'y a pas besoin de carburant. Et là, en ce moment, on est en train d'aller tranquillement, mais sûrement, jusqu'à 36 000 km. Il va pouvoir être utilisé pendant 5 ans, sans problème. Ça va impeccablement fonctionner.
Impeccable.
Fait à la brique.
Oui. Je me suis dit comment des choses. Ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il il a une partie des actus qui ont été bossées jusqu'à aujourd'hui. Et puis la deuxième partie, c'est les informations qu'il a récupérées aujourd'hui.
Voilà.
Donc ce qu'il fait, c'est qu'il jette les feuilles qu'il n'a pas besoin.
Je fais une synthèse en direct.
Voilà.
Et la dernière bonne nouvelle pour Ariane Espace, c'est l'attribution du prix Aclan 2000. Donc le prix Aclan, c'est un prix qui est destiné à encourager les travaux de jeunes savants, inventeurs ou ingénieurs contribuant au progrès de la science et des techniques, en particulier dans l'industrie aéronautique et spatiale. Je lis dans le texte.
Hein. Oui, ça se voit que tu le lis. Hein.
Et donc ce prix a été remis à Sophie Moffret, et Sophie Moffret, elle a développé le nouveau système de pilotage Ariane 5.
Ah, c'est bien.
Donc encore une distinction pour les lanceurs européens. On va quitter la Terre, on va aller du côté de Mars, puisque là aussi des grandes opérations ont commencé, puisque Mars Odyssey a officiellement débuté sa mission. Alors, ça a commencé...
Elle est en phase de test, en fait. Hein,
le 18 février. Mm-hmm. Et là, ce n'est plus les phases de test réellement, enfin, à paramètres, mais là, ils ont activé tous les instruments, tout fonctionne, ou presque. Il y en a un qui apparemment est en panne. Ils ne savent pas trop s'il va redémarrer. Mais ça fait un moment qu'ils le savent, il est en panne. Ils s'en sont rendus compte au moment du freinage de la sonde. Ils ont dit, on s'en occupera plus tard. C'était sûr qu'il valait mieux freiner la sonde plutôt que de s'occuper de déployer l'instrument.
Tout à fait.
Donc, pour l'instant, ça fonctionne bien. Apparemment, ils auraient trouvé beaucoup plus d'eau que prévu, mais c'est vraiment à prendre avec des pincettes, parce que, comme je vous ai dit, on vient de voter les budgets de la NASA, et c'est toujours le cas. Quand on vote les budgets de la NASA, les sondes, soudainement, trouvent plein de choses. Donc, on va attendre de voir les résultats.
C'est vrai que ça, c'est génial. Ça, vous faites des statistiques, c'est vrai que...
Ils ont peut-être même trouvé une comète.
Peut-être. Ils vont trouver un petit bonhomme vert qui va être sur Mars. Ou...
Voilà. Un peu plus loin de Mars, l'ESA vient d'annoncer...
Donc, l'ESA, c'est l'Agence spatiale européenne.
Qu'ils ont découvert la preuve directe qu'il existerait un disque de matière autour du système solaire, un disque de matière lumineuse. Mmh. Alors, pourquoi cette information est intéressante? C'est parce que ça, ce serait la preuve, ça confirmerait l'hypothèse selon laquelle, quand une étoile assez ancienne a un disque de poussière autour d'elle, c'est pas un disque protoplanétaire, mais c'est la preuve qu'il y a un système de planète déjà. Et que le disque, c'est le reliquat du système protoplanétaire, c'est le reliquat de collisions, de choses comme ça. Typiquement, chez nous, les collisions qui peuvent se produire dans la ceinture de Kuiper entre les différents noyaux de comètes qui génèrent des poussières qui vont se balader après à l'extérieur du système solaire.
Ça veut dire surtout, en fait, que si on est sûr, si on a un disque de matière autour du système solaire, ça voudrait dire que si on en détecte autour d'autres étoiles du même type, ça pourra peut-être signifier qu'il y a des planètes créées.
Et pas simplement un disque protoplanétaire comme ce qu'on trouve actuellement.
Voilà.
Et pour finir, je vais aller encore plus loin par une nouvelle qui nous pose pas mal de questions, puisqu'il semblerait qu'il y a 2 millions d'années, si on regarde biologiquement les couches de sédiments sur Terre, il y a eu une extinction catastrophique et dramatique de la vie marine sur Terre.
Ouais.
Il y a plein de plancton, plein de bestioles qui sont mortes.
Plein de bestioles. Vraiment que Daniel Warling n'est pas là, c'est biologiste, il te dirait les noms détaillés.
Les espèces
qui ont disparu. Et bien la raison, semble-t-il, est astronomique. Et quand on dit astronomique, c'est pas n'importe quoi, ce serait une explosion de 2 ou 3 supernovas qui auraient lieu à proximité de la Terre il y a un petit moment. Quand on dit à proximité, c'était à l'époque, je vais plus faire de mon papier, mais c'est pas grave, je vais le faire de mémoire. C'était donc dans le groupe d'étoiles Scorpius Centaurus, alors tu vas me dire où c'est, ça je sais pas.
Hein,
c'est
en Scorpion et Centaure, voilà.
Mais c'est où, j'en sais rien. Toujours est-il qu'il y a 2 ou 3 étoiles qui ont explosé. Ça a généré des rayons cosmiques, ultra-énergétiques, qui sont arrivés sur Terre. La couche d'ozone n'a pas aimé du tout. Mais quand on dit pas aimé, elle a été pulvérisée sur place. Et les bestioles qui étaient sur Terre se sont prises ultraviolets du soleil.
Factuellement, ton vocabulaire, c'est entre paplard et bestioles. On a une émission de radio, on a un minimum de culture. Vas-y, continue.
Les espèces vivantes, si tu préfères, biologiques et vivantes, qui étaient présentes sur Terre, ont été...
Il va nous dire bousillées. Voilà.
Non.
Vas-y, trouve un autre mot alors.
Allez, on subit l'effet
atomisé.
Irradié. Voilà. Ils ont été irradiés par les rayons ultraviolets du soleil et donc ont disparu pendant un petit moment. Bon, heureusement, la vie a pris. On est là pour raconter les conneries. On est là pour en témoigner, mais toujours est-il que.
On peut être là, mais pas parler bien à la France. Hein.
La preuve en est qu'on n'est pas foncièrement à l'abri de ce genre de choses, parce que si aujourd'hui une étoile pas trop lointaine explosait, qu'est-ce qui se passerait? Il faut se poser la question. Mm-hmm. Voilà, donc on va terminer là-dessus.
Merci beaucoup Fabrice. Tout de suite, nous allons aborder une autre partie de l'émission, vous présenter rapidement la prochaine conférence que va donner Marie-Yvonne Girard. Alors, donc là, c'est une partie un peu importante aussi quand même. C'est la prochaine conférence de la Société de l'Astronomie. La dernière a été réalisée le 1er mars par Bruno Sicardi. Je vous rappelle que vous pouvez gagner des places pour la conférence de Marie-Yvonne Girard en répondant à la question suivante. Quel est le nom de notre galaxie? En répondant, vous nous téléphonez au 02 40 93 26 62. 02 40 93 26 62. Il y a déjà plusieurs gagnants. N'hésitez pas, il y a des places à gagner. 5 gagnants exactement. Il y a des places à gagner pour la conférence. Donc la conférence que devait donner au départ Françoise Combes, qui est une astronome à l'Observatoire de Paris-Meudon, qui en fait n'a pas pu nous a prévenu qu'elle pouvait pas assurer sa conférence, mais nous a conseillé une collègue à elle, une spécialiste aussi de galaxies, d'astronomie de l'invisible, qui est Madame Marie-Yvonne Girard, qui est quand même chargée de recherche au CNRS et qui travaille notamment au laboratoire d'études du rayonnement et de la matière en astrophysique. Donc, à l'Observatoire de Paris. Donc, en fait, c'est une collègue de Françoise Combes qui va venir on va pas dire assurer l'intérim, ça serait un peu méchant, mais à faire sa faire une conférence qui a changé de titre. La première conférence qu'avait donné Françoise Combes, c'était des galaxies au quasar, et Marie Van Gérard va nous faire une conférence qui s'appelle l'astronomie de l'invisible et l'évolution des galaxies. Bien sûr, vu que c'est une collègue à Françoise Combes, et elles ont des parties communes au niveau de leur recherche, mais là en fait ils ont bien sûr des spécificités chacune. Donc là, la conférence va en fait vous parler des galaxies au sens large, c'est-à-dire de tous les objets célestes qui nous entourent, qui ne sont pas des structures immuables, et en fait elles évoluent continuellement à un rythme régulier. Donc Frédéric Brion, qui on va pas dire qu'est un spécialiste, mais qui a réalisé notamment des études à l'observatoire de Charette-Renard, dont on vous parlera tout à l'heure, sur les galaxies. En fait, on a remarqué qu'il y avait plusieurs types de galaxies, et en fait on est quasiment sûr que certains types de galaxies qu'on observe sont une évolution des types précédents, ou alors sont une...
On l'explique pas encore complètement.
Pas complètement, bien sûr, c'est ça l'intérêt de la recherche.
C'est vrai qu'on a différentes formes de galaxies, en particulier des galaxies en forme spirale, ou des galaxies qu'on appelle elliptiques. Et on ne sait pas si les galaxies spirales sont des évolutions des galaxies elliptiques ou que ce soit le contraire. Donc tout ce qui peut être justement une nouvelle étude, peut-être infrarouge, vont nous permettre de voir les galaxies au tout début de leur évolution, remonter assez loin dans l'âge passé, de l'univers, et voir un peu justement comment étaient ces galaxies à leur tout début et comment elles ont pu évoluer dans le temps. Et peut-être comprendre un peu mieux justement cette formation et cette évolution de galaxies, alors que ça peut être tout simplement aussi mieux comprendre les phénomènes de collision galactique, et justement voir derrière ces collisions galactiques comment peuvent évoluer les galaxies après de tels chocs.
Donc en fait là, pourquoi le titre de la conférence va aussi s'appeler l'astronomie de l'invisible, c'est comme tu as parlé, ce qu'on appelle l'astronomie de l'invisible, c'est notamment l'infrarouge, c'est qu'en fait, vous savez tous qu'on rayonne en tant qu'être humain de l'infrarouge, c'est-à-dire de la chaleur, et c'est vrai que une galaxie observée dans le visible ne donne pas les mêmes informations que dans l'infrarouge, c'est-à-dire que vous voyez des étoiles qui sont très lumineuses en visible, qui vont être très faibles en infrarouge, soit alors très importantes, inversement, etc. Et donc, quand vous observez dans tous les rayonnements, rayon X, rayon gamma, rayonnement ultraviolet, etc., ça donne beaucoup d'informations sur en fait la composition des galaxies lointaines, et puis notamment le rayonnement infrarouge est beaucoup utilisé pour les galaxies, puisqu'en fait c'est tout ce qui est rayonnement de chaleur, et aussi ça nous permet de voir en fait ce qu'on appelle les poussières, et essayer de comprendre facilement sa composition. Donc bien sûr, comme toutes les personnes qui interviennent dans des conférences et des personnes qui sont en plein dans l'actualité, c'est-à-dire qui sont dans la recherche tous les jours, et en fait là apparemment il y a plusieurs projets, plusieurs grands projets d'observation de galaxies dont va nous parler Marie Van Gérard, on espère de plusieurs découvertes, comme le disait Frédéric, essayer de comprendre pourquoi il y a différents types de galaxies. Donc on parlait des spirales, il y a les galaxies barrées, ce qu'on appelle les elliptiques, ou même des spirales barrées d'ailleurs, et puis aussi les galaxies irrégulières, qui elles sont quasiment inclassables,
des formes très très spéciales.
Alors pour ceux qui veulent avoir des images des galaxies, je vous invite à aller sur le site internet de la SAN, il y a une page consacrée entièrement aux galaxies avec des photos prises par les adhérents de la SAN lors d'une mission qu'ils ont fait notamment à Château-Renard. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs types de galaxies, ils ont une évolution différente, et puis bien sûr on parle des photos notamment qu'on a vu magnifiques à partir de l'observatoire de Hubble. L'observatoire, le télescope de Hubble, il y a des collisions de galaxies, et c'est vrai que on ne sait pas trop si la nôtre va pas se prendre une galaxie dans quelques millions d'années.
Je dirais même qu'elle est en collision avec une galaxie, deux galaxies sont les nuages de Magellan actuellement.
On est quasiment sûr. Ouais.
Et ce sont des collisions sans trop de choc.
De choc,
les collisions galactiques sont à très très grande échelle. Et quand on parle de collision, il y a quand même très très peu de chances pour qu'une étoile rencontre une autre étoile entre deux galaxies.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de vide en fait.
Il
y a beaucoup de vide. Donc c'est vrai que l'intérêt de comprendre les autres galaxies, comme le disait très bien Debraïc quand il parlait du système solaire, c'est que pour comprendre notre galaxie, quand vous êtes savant, pour comprendre un objet, il suffit de... vous pouvez tailler dedans pour voir un peu de quoi c'est composé, vous pouvez le chauffer, le refroidir, l'étirer, l'aplatir. Le problème, c'est que la galaxie, on ne peut pas le faire. Donc, notre seule solution en astronomie, c'est ce que sont obligés les astronomes. C'est pour ça qu'on observe beaucoup les objets. C'est qu'on observe les objets plus vieux, plus jeunes, plus chauds, plus froids, plus grands, plus petits, pour essayer de comprendre est-ce que celui-là était dans l'évolution avant tel autre. Donc, c'est vrai que les galaxies, on a différents types de galaxies. On ne sait pas encore exactement comment elles évoluent. On ne sait même pas exactement non plus comment elles se créent. Donc c'est vrai que l'astronomie, on connaît beaucoup de choses, mais plus on connaît presque, plus on a besoin de connaître, puisque avant, il y a quelques années, il faut savoir que les galaxies, ça date des années 30, on savait même pas que les galaxies étaient en dehors de la nôtre, ce qu'on appelait les univers îles. Donc c'est vrai que ça évolue très vite, mais aussi il va falloir maintenant essayer d'apprendre beaucoup de choses sur les galaxies. Donc c'est ce que nous va nous proposer Marie-Yvonne Gérard lors de sa conférence c'est un vendredi 29 mars, une conférence intitulée « L'astronomie de l'invisible et l'évolution des galaxies ». Donc, on va aborder cette conférence le vendredi 29 à la salle de Bretagne, la petite salle habituelle des conférences de la SAN, pour laquelle vous pouvez gagner des places. Je répète la question avant la fin de l'émission au 02 40 93 26 62, 02 40 93 26 62, et vous répondez à la question suivante: quel est le nom de notre galaxie, puisqu'on a parlé un petit peu des autres galaxies et comment était-elle, et donc on vous pose la question: quel est le nom de la nôtre? Tout de suite, on va aborder la suite de l'émission. On va parler de ce qu'on parlait un peu tout à l'heure, des missions à Château-Renard, c'est-à-dire qu'il y a une équipe de la SAN qui est montée à 3000 mètres dans un observatoire, et ils vont nous parler un peu de ce qu'ils ont fait, vu qu'ils sont redescendus. Et c'est Frédéric Briand qui a notamment participé à la mission, qui était le chef de mission.
Exact.
On va te mettre un titre.
Nous sommes redescendus.
Voilà, on vous en a parlé la dernière émission, que voilà. Vous montiez à 3000 mètres en hiver.
En hiver, c'était une première, à l'observatoire en hiver. Bon, sachant qu'on était monté plusieurs fois.
Ça fait 3 ans que vous montez en été.
Voilà.
3 ans que les adhérents montent en été.
C'était officiellement la 6e mission de la SAN en hiver. Donc c'était une mission qui avait un peu un objectif spécial. C'était surtout d'abord découvrir les conditions hivernales à l'observatoire, ce qui n'est pas très très simple quand même, parce que l'observatoire est perché entre guillemets à 3000 mètres, et c'est un peu l'aventure pour déjà l'atteindre en hiver. Bon, sachant qu'on n'a pas été très très aidé cette année, nous sommes arrivés donc le vendredi 15 février, pensant tout d'abord monter en raquette parce qu'il y avait très peu de neige à cette époque. Et lorsque nous sommes arrivés à Saint-Véran, qui est le village qui abrite l'observatoire, nous avons eu l'heureuse surprise de trouver la neige. Et un beau paquet de neige, car il était tombé le jour même et la veille plus de 50 cm de neige.
Ça veut dire des risques d'avalanche.
Donc des risques d'avalanche, ce qui a, nous a facilité un peu la tâche, parce que au lieu de monter en raquette, nous avons pu monter en ski de randonnée.
Ah, par contre, c'est plus pratique,
quoi. Réduit entre guillemets le temps de monter, mais ralenti aussi la montée à l'observatoire, car justement nous devions monter le samedi. Et vu les risques d'avalanche, nous avons reculé d'une journée la montée à l'observatoire, et nous sommes donc montés le dimanche matin. Alors c'est ça aussi ce qui fait un peu l'aventure, c'est que justement il faut savoir aussi gérer la neige entre guillemets pour monter là-haut. Alors ça a été la montée a été une aventure quand même, parce que vu que c'était les premières chutes de neige, la station de Saint-Véran n'était pas complètement ouverte. Normalement nous prenons vulgairement 3 téléskis pour monter à 2800 mètres, et nous finissons sur une petite heure de marche en ski de randonnée jusqu'à l'observatoire. Et là, malheureusement, tous les téléskis n'étaient pas ouverts, et il n'y en avait que 2 sur les 3. Et
donc, c'est-à-dire que le troisième...
Nous nous sommes arrêtés à 2600 mètres. Ah. Et après, ce fut assez long, ma foi, car il a fallu d'abord rejoindre l'arrivée du troisième téléski, donc 2h30 de ski de randonnée, et derrière ça, 1h30 pour monter à l'observatoire. Donc, en tout, 4 heures de ski de randonnée... pour monter tout en haut de l'observatoire. Donc ça n'a pas été évident, ça a été assez fatigant quand même. Mais nous y sommes arrivés et la vue est quand même assez magnifique en hiver. C'est un peu différent pour ceux qui connaissent l'été, ceux qui sont déjà montés l'été.
Mais c'est... On peut aller le visiter l'été. Hein.
On peut aller le visiter l'été. Mais c'est assez impressionnant de voir à 3000 mètres tous les sommets enneigés, de vivre, je dirais, dans une... entouré de neige, hein, parce qu'il y avait par endroits autour de l'observatoire des 1 mètre, voire 1 mètre 50 de neige, hein, de la neige balayée par le vent. Donc nous sommes arrivés là-haut et nous avons essayé de profiter de notre semaine. Malheureusement, elle n'a pas été très très fructueuse au niveau observation, car on n'a pas eu des conditions très très stables et notamment beaucoup de vent. Et à 3000 mètres, quand il y a du vent, c'est très très gênant. En particulier lorsque le vent se lève et que la coupole est ouverte, il a tendance à ramener un peu la neige dans la coupole. Et là, malheureusement, au vu des instruments, vous ne pouvez pas vous permettre de continuer à observer. Parce que de la neige sur un miroir de télescope ou autre, c'est trop, entre guillemets, trop dangereux pour le matériel. Alors nous avons quand même pu observer quelques nuits. Nous avons en particulier fait des images... électronique ou des images CCD pour ceux qui connaissent, sur des thèmes qui sont les nébuleuses diffuses, donc des nébuleuses telles que la nébuleuse d'Orion, nébuleuses où naissent les étoiles, et quelques galaxies. Alors malheureusement, on n'a pas été très très loin dans les galaxies, on a fait quelques galaxies en interaction dont on parlait tout à l'heure, et quelques amas de galaxies. En particulier une image assez impressionnante d'un champ très très restreint dans une constellation riche en galaxies, une constellation du printemps, et où là, sur un champ très très restreint, un peu comme Hubble, on peut dénommer une cinquantaine de galaxies, voire plus. Quoi.
On est en train de refaire un point justement avec Frédéric Briand au niveau du site internet pour... on va refaire toute la partie observation et surtout on va vous mettre toutes les photos qui ont été prises lors des dernières missions, dont celle-là, qui sont en cours de traitement, elles ne sont pas finies encore, si tu as eu le temps des...
Il y en a quelques-unes en cours de traitement, mais il y en a quelques-unes déjà de réalisées. Donc semaine pas très fructueuse au niveau observation, mais semaine très très enrichissante au niveau conditions de vie.
Il faut bien apprendre, ouais, c'est vrai.
Il faut apprendre. Je dirais dans cet observatoire, on est complètement autonome, que ce soit en été ou en hiver, avec les conditions et l'environnement qu'il y a autour. Mais ça a été très très enrichissant. Et je pense que ça amènera d'autres missions d'hiver. La principale, je dirais, avantage des missions d'hiver, c'est que là, vous bénéficiez de nuits qui sont très très longues.
Des très très noires.
Beaucoup plus noires, si vous, malheureusement, vous n'êtes pas gêné par la Lune. Voilà. Mais elles sont beaucoup plus noires, beaucoup plus longues, mais par contre aussi beaucoup plus physiques pour l'organisme, car il fait pas chaud, les températures peuvent avoisiner moins 15, c'est le type de température qu'on a eu dans la coupole, donc moins 15 degrés, vous résistez quand même pas très très longtemps, même bien couvert, donc ça fatigue aussi énormément l'organisme, et il faut travailler en équipe, c'est-à-dire une première équipe qui fait la première partie de nuit, et une deuxième équipe qui relaie, en milieu de nuit, la première, pour observer sur l'ensemble d'une nuit. Mais c'est vrai que c'est assez difficile physiquement, vous ne pouvez pas tenir une nuit complète à observer, à cause du froid et à cause surtout de la longueur de la nuit.
D'accord.
Donc voilà pour cette mission. Bon, comme tu l'as dit, on mettra bientôt les images
sur Internet,
et puis vous pourrez voir un peu ce que l'on fait là-haut, en hiver comme en été.
Tout à fait. Merci beaucoup, Frédéric. Nous allons arriver à la conclusion de cette émission. Donc, on a eu le bonheur d'avoir Olivier Sosereau sur place pour en direct pour nous parler de sa conférence qu'il a effectuée notamment le mardi 22 février, janvier plutôt, à la semaine de l'astronomie. Je vous rappelle les prochaines dates. Lundi 1er avril, c'est la prochaine... émission Pulsan.
Et c'est pas un poisson d'avril.
C'est bien lundi 1er avril, premier lundi de chaque mois. Le prochain événement au niveau astronomique, vous avez toutes les dates que vous a donné Frédéric qui sont à observer, les objets. Donc on avait dit Jupiter, Saturne, lever de Vénus, une comète,
Et puis les galaxies.
Et puis les galaxies, et puis les catalogues Messier.
Et surtout le 23 mars, la prochaine édition des Ciels de Nantes.
Tout à fait, 23 mars, prochaine édition Ciel de Nantes, l'observation publique de la SAN. Le 29 mars, la conférence de Marie-Yvonne Gérin sur l'astronomie de l'invisible et les galaxies, pour lesquelles on vous a fait gagner des places. Les gagnants, il y a un Patrick à Orvault, un Benoît à Nantes, un Nulan, c'est ça ? À Nantes, une madame, on va pas dire son nom, à Touareg, pour éviter que les gens l'agressent, et un Garval. Bon, alors les personnes qui appellent essaient d'avoir des prénoms que je puisse articuler. Durval, d'accord, à Nantes. Excusez-moi pour avoir écorché vos prénoms. Toutes ces personnes-là recevront par la poste une invitation pour la prochaine conférence. Du 29 mars, tout de suite, c'est Reggae Time. Et puis, à la prochaine émission, lundi 1er avril.